We always thought alien life would come from the stars. But it came from deep beneath the Pacific.
What the hell is going on?
Les podcasts de Doc. Pantatus.net.
Tsungui, les poulpettes et les boules. Si vous nous écoutez ce soir, si vous n'êtes pas en train de regarder cette émission débile qui s'appelle Rising Pulp sur M6, et que vous faites bien car vous écoutez les poulcasts. Alors, c'est vrai que maintenant je fais ça proprement, donc nous sommes le 6 novembre 2014. La fin du monde n'a pas encore eu lieu, Cthulhu ne s'est pas encore réveillé. On doit être autour du 30e poulcast, mais bon, le poulcast étant un événement apériodique, sortant du spectre, difficile de compter. Et vous ne les entendez pas pour l'instant, mais nous avons dans la cave de Toc 3 personnes en plus. Nous serons rejoints par un 4e. Nous avons donc Sergi Soin. Bonsoir Sergi.
Bonsoir.
Bonsoir Dark Keeper.
Fonglui.
Et bonsoir Beat Bastard.
Salut les gars.
Qui est au fond vraiment de la cave, lui. Il est près des bouteilles.
Ça va pas mon truc là encore.
Bon, ouais, près des bouteilles, on a bien attaché quand même. Hein.
Voilà, il bouge pas. S'il y a un bruit de chaîne, c'est normal, il essaie de se détacher.
Donc, c'est le bordel.
Pour vous donner un peu le programme de ce soir, donc c'est encore et encore un podcast sur Mar des Masques. Donc pour ceux qui n'ont pas écouté les précédents, un petit rappel, c'est on vous défend des campagnes méconnues, pas assez connues, ou méconnues comme il faut pas. Excusez-moi si je tousse de temps en temps. Et donc on va essayer de les défendre, et ce soir on va vous défendre quatre belles bêtes, on va dire. Katat, la cité inconnue, qui est, je dirais, un JDR-like, hein, on est d'accord, Sergi Sang.
Ouais, un objet.
Voilà, un objet.
Ouais.
Ensuite, je vais poursuivre avec la bête inhumaine, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce scénar qui n'est pas une campagne. Sergi aura pris des... Je vais dire des dragées fucales. Je veux dire des bonbons pour la gorge. Il reviendra après moi pour le réseau divin. Grande campagne moderne, s'il en est. Et nous terminerons par le clou du spectacle, avec donc Beat Bastard et Dweller, qui nous parleront de Fungi, enfin Dweller, s'il ne s'est pas fait capturer et retenir en otage par sa belle famille. Donc on va commencer par toi, Sergi Sang. Donc bon, ouais. Je n'y connais pas, hein, je le rappelle, le principe de toute pièce Mar des Masques. On a entre 10-15 minutes pour défendre son bout de gras. Donc on fait comme on veut, on parle de ce qu'on veut, on défend sa campagne, puis après, pendant les 10 minutes suivantes, eh ben, on se fait bâcher par les 4 autres. Non, on essaie de mettre en défaut, d'expliciter certains points qui nous ont paru obscurs, quoi que ce soit, enfin de faire les bons tokens de base. Et donc c'est toi, Sergi Sang, l'insigne honneur de débuter avec, que je me rappelle, c'était bien sûr Kadat, la cité inconnue. Donc n'hésite pas aussi un peu à présenter le cadre, vu que c'est pas un jeu de rôle, quoi.
Bah justement, en fait, je comptais commencer par ça, parce que parler de Kadas, les aventures de la cité inconnue, c'est qu'une petite partie d'un grand tout. En fait, il y a quelques années, Nemos a lancé une nouvelle édition, enfin une nouvelle collection, basée autour des univers qui ont été créés ou qui ont été partagés. Et donc, ils avaient sorti Kadas, le guide de la cité inconnue.
Je te coupe 30 secondes, Beat Bastard, par moment, il y a de l'écho de ton côté.
Ok.
Mais baisse un petit peu, puis quand tu voudras parler, remonte. Excuse-moi, ouais. Sergi Sang, vas-y, tu peux reprendre.
C'est pas grave, vas-y. Le bouquin de chez Nemos, d'abord, parce qu'on est obligé de passer par là, c'est le récit de 4 personnes, 4 époques différentes. Quatre personnalités différentes, 4 auteurs différents même. Et ce qu'il y a, c'est que c'est...
4 auteurs
du scénar. Oui, en fait, il y a carrément 4 auteurs dans le bouquin de Nemos différents. Donc là, j'ai plus forcément les noms en tête, mais on a quand même l'auteur du bouquin qui va parler de ses recherches autour de Kadas. On a Aliénor, de mémoire, qui doit être une nonne du Moyen-Âge. On a un gars qui était dans les années 20, et puis on a un certain HPL. Ah ouais, ils ont fait fort. Et en fait, tous vont raconter leur découverte de cette cité emblématique des temps du rêve. Donc, on va aller de plus en plus profond, de plus en plus loin dans le savoir, jusqu'à découvrir des choses finalement on a presque préféré ne pas découvrir.
Innommable.
Ouais, exactement. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a vraiment une présentation progressive. C'est-à-dire qu'on a deux façons de lire les bouquins. Soit on s'attache à un narrateur, et en fait on va avoir une histoire continue. Soit on prend tous les narrateurs en même temps, et on va aller vraiment de quartier en quartier découvrir ce que chaque narrateur a découvert dans ce quartier. Au niveau de la présentation, alors pour ceux qui connaissent un petit peu les bouquins français qu'on ne trouve plus beaucoup, genre Cadboillon, on a à peu près la même présentation, à savoir par quartier, on a un indice d'horreur, mais un indice de mythe. Donc on va voir, plus on a d'horreur, plus on va prendre cher, plus on a de mythe, plus on va prendre des connaissances. Et en fait, tout ça, ça va servir après sur un deuxième bouquin. Là, pour le coup, édité par les 12 singes. Les aventures dans la cité inconnue. Parce qu'en fait, le bouquin de Nemos est considéré comme une véritable aide de jeu, mieux comme un guide que chaque investigateur va avoir sur lequel on va pouvoir se référer.
Alors, t'es censé leur donner à chaque fois guide, quoi.
Alors, c'est même quasiment obligatoire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les aventures de la cité inconnue, on a quatre personnages pré-tirés. Avec un système de règles créé pour l'occasion. Donc on a Dandy, donc qui est un Dandy de 1920. On a Aljamba, qui est un nomade, un petit peu avant le Moyen-Âge. On a Pierrot, qui est un artiste de la Renaissance. On a Soris qui est un inquisiteur et on a en fait une bonne femme au nom quasiment imprononçable qui elle vient du futur et essaie de trouver une solution pour sauver l'humanité.
Vu les personnages que tu nous décris, tout le monde prend pied directement dans les contrées du rêve.
Voilà, en fait on n'a pas de passage dans le monde réel. L'interaction entre les joueurs ne peut se faire que dans la cité inconnue. Puisqu'en fait, tout le monde est devenu suffisamment rêveur pour aller régulièrement à Cadas et découvrir les secrets de la ville. La grosse originalité, c'est qu'on n'a pas un gardien, mais cinq. C'est-à-dire que chaque livret, c'est une série d'aventures où le personnage en question n'est pas présent. Et en fait, c'est le personnage le joueur qui est le personnage qui va faire le gardien pour les autres joueurs.
D'accord.
Donc finalement c'est assez sympa parce que on n'a pas ce côté parfois un peu lourd du gardien qui a fait vœu de chasteté et qui ne joue
c'est
jamais.
C'est encore moi qui achète les pims, c'est le petit orange.
Voilà, exactement. Mais par contre, en fait, finalement, sur on va dire 10 soirées, chacun va masteriser deux aventures. Donc en fait. Moi, ce qu'il y a, c'est que je ne l'ai pas utilisé exactement comme ça. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a un gros souci, mais j'y reviendrai justement quand je l'aborderai un petit peu les faiblesses.
Non, vas-y, parle du souci. On a des arguments. Lol.
Je vais en parler. Mais je vais tout faire d'un bloc, comme ça, vous allez en oublier la moitié et vous ne relancerez pas dans la gueule.
Je note.
Zut. Donc en fait, les scénars sont relativement sympas. Il faut savoir que c'est des scénars à la 12 singes. Pour ceux qui connaissent pas cet éditeur français qui au passage fait vraiment des choses de très grandes
qualités. C'est lui qui fait les trucs clés en main ou pas?
C'est eux qui font les clés en main, c'est eux qui ont fait Trinité.
Passion 13, non?
Passion 13, non, ça c'est John Doe de mémoire.
Ah merde.
Mais ils ont quand même. Donc quand même comment Terra Incognita qui est plutôt sympa dans l'univers des cours du Roi Soleil. y a Trinité, qui est un jeu que moi j'aime beaucoup et que j'ai bossé. Donc voilà, ils ont quand même fait des bonnes choses. Le problème, c'est que ben, leur scénario, c'est quand même un petit peu juste pour moi. Là, si je prends un bouquin, hein, j'ai 15 pages de bouquin, j'ai deux soirées de parties dessus.
Quand tu dis un peu juste, c'est-à-dire il manque des choses.
Alors, en fait, il manque un peu de biscuit quand même. C'est-à-dire que on a la trame principale, mais clairement derrière, bah, il faut quand même pas mal bosser pour avoir un truc qui se tient largement.
Par contre, j'avais entendu dire que c'était un peu des parties apéro, donc c'est censé durer combien de temps ?
Bon, on peut tenir. Moi, je sais que sur quelques. En fait, j'ai réutilisé quelques scénars. On peut tenir facilement 4 heures sur un scénar. Quoi.
Ah, quand même, d'accord.
Ouais, en le diluant bien, en rajoutant quelques péripéties, on peut facilement tenir 4 heures. Après, effectivement, si on veut faire de l'apéro, ouais, on tient 2 heures sans trop chercher plus, quoi. Voilà. Après, moi, c'est vrai que je les ai plus utilisés sur du long terme. Donc, en fait, moi, j'ai remodifié un petit peu les scénars, ce qui est tout à fait faisable et très vite faisable. De façon qu'on ait un seul gardien et puis des investigateurs derrière.
D'accord, t'as pas fait tourner.
J'ai pas fait tourner parce que j'avais pas forcément tourner, des personnes qui avaient. Bah, disons que les personnes que j'avais n'étaient pas forcément tous capables de tenir comme ça une soirée, donc.
Ouais. Donc, préféré garder pour moi. Ce que tu nous dis, c'est que ça demande quand même une certaine habileté en tant que gardien.
Ouais, ouais. Ça, il faut quand même pas mal préparer. Mais bon, pareil là encore, j'y reviendrai un petit peu. Autre petit truc sympa, c'est que avec on a un système de jeu qui est très fluide. Et bon, on y reviendra quand on parlera des thèmes.
Spécialité de service, c'est I'll be back.
Ouais. Non mais ouais, là franchement, ouais, ça mérite à mon avis qu'on y jette un œil parce que on a un système qui est très fluide. Et à prendre en main immédiatement. On le lit une fois, on a tout compris. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis on se prend pas la tête à faire 50 000 tests. Voilà. Donc c'est sûr que c'est certainement amélioré. Par exemple, on n'a pas de réelle gestion de SAN. Mais derrière, il y a des petites idées simples et faciles. Pour des personnes qui connaissent pas forcément le jeu de rôle et qui ont envie de découvrir. Ça m'amène justement au point négatif un petit peu de cette campagne entre guillemets. Déjà je dis campagne entre guillemets parce qu'il n'y a pas de logique entre les scénarios, sauf quelques-uns où on arrive au deuxième parce qu'ils ont réussi le premier. Je prends par exemple le cas de Soris, où effectivement les deux scénarios sont vraiment liés, où le mec peut devenir un haut rêveur et avoir son palais dans les quartiers intérieurs de Kadas.
Le lien, il y a quand même le lieu et puis l'équipe.
Alors, il y a le lieu, il y a l'équipe, mais derrière, en fait, c'est vraiment du scénar à part.
One shot, d'accord.
Voilà, du one shot. On n'a pas de vraie logique entre les scénarios. Sauf exception, hein, bien sûr. Il y a pas mal de pistes qui sont finalement données, donc on peut retrouver, on peut agrémenter, continuer, et puis essayer d'avoir, mine de rien, de créer une petite campagne par gardien. Mais bon, après, ça va demander, ça va être l'application de chacun qui va dépendre de ça. Après, justement. Je dirais que c'est le genre de jeu qui est bien fait, mais qui manque un petit peu son public. Pourquoi ? Oh. Parce qu'en fait, on a un système qui est sympa, très facile à prendre en main. Comme je l'ai dit, on ne cherche pas à se prendre la tête avec des stats, etc. On a du prêt tiré, donc pas la peine que chacun passe 3 heures à créer un investigateur, il est déjà tout fait. Mais derrière, on a tellement de boulot par rapport à un scénar pour tenir une soirée que, en fait, on donne un système qui est bon pour des novices, Et derrière, ça demande quand même du boulot et de l'application qu'on n'a pas forcément envie, qu'on ne sait pas forcément faire quand on débute.
Quand on débute, mais quand tu dis du boulot, ça veut dire qu'il y a des pistes mais qui ne sont pas explorées ou il y a carrément des pistes à créer?
C'est, en fait, les pistes sont vraiment légères, quoi. Bon, après, c'est aussi des énigmes à la Doucinge où si t'as pas super bien écouté, pris des notes de tout ce qui se disait et puis lu le bouquin deux fois, bah, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Et puis après, bah, y a un autre souci, c'est que il faudrait quasiment que chaque gardien ait lu l'intégralité du guide de la cité inconnue avant de faire la partie.
Ah ouais,
alors effectivement, on va faire des rappels, hein. Par exemple, je prends au hasard un scénar un petit peu fun de Dungeon Bain où en fait les investigateurs jouent des chats. Mais mais c'est fun et ça passe super bien. Tu vois, par exemple, on parle des Languites, le bouquin va faire le scénario va faire référence au bouquin. Donc effectivement, on va voir la page pour suivre un petit peu plus et comprendre un petit peu mieux. Mais d'un autre côté, en fait, derrière, on a des petits bouts de cité sans vraiment connexion, et c'est à nous de faire les connexions derrière. Pour avoir vraiment une immersion là-dedans.
Est-ce que les joueurs peuvent avoir le guide de la cité avec eux pendant la partie?
Alors, justement, en fait, c'est très conseillé de l'avoir avec eux. Et le guide de la cité est vraiment une aide de jeu. En plus, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup avoir des vrais bouquins quand on parle des aides de jeu. Là, effectivement, les gars, je leur pose le bouquin sur la table. Le moment où il y en a un qui a envie de le feuilleter.
Du coup, ses gros doigts pleins de pizza dessus.
Ouais, ou quoi? Parce que là, je coupe. Là, je coupe carrément. Mais ce qu'il y a, c'est que voilà, il a un vrai guide touristique à portée de main avec une superbe carte référencée en couverture, enfin à l'intérieur de couverture. Et derrière, c'est vrai qu'il a, ils ont un super matos, quoi.
Par contre, point de vue temps, on peut pas te donner une demi-heure. Est-ce que tu peux attaquer un peu le système, Stup?
Alors, attaquer le système, c'est un système des 6. C'est vrai que c'est plutôt facile à trouver déjà. Pour tout ce qui est compétences, on a les 2, 4, 6, 10, 12. Allez, 20 compétences à tout casser.
D'accord.
Possibilité d'évoluer. Et puis, un système très simple. Hein, les compétences, au bout de chaque livret, on a la fiche du perso. Chaque case cochée, c'est un dé qu'on lance. Sur 5 ou 6, c'est une réussite, voire 2 sur un 6. Il faut faire une réussite pour réussir un test.
D'accord. Voilà.
Donc, c'est simple.
Tu disais qu'il n'y avait pas tellement de règles de santé mentale.
Alors, il y a des règles de points de vie, donc des règles de combat, effectivement. Plus on va prendre des points de vie, plus on va en perdre, plus ça va être compliqué, puisqu'on a sur la fiche en fait les malus qui sont directement affichés.
D'accord, toute une unité.
Voilà. Et par contre, en fait, on a un système de entre guillemets d'évolution, c'est-à-dire qu'on a des atouts qu'on va pouvoir utiliser plusieurs fois. Plus on va évoluer, plus on va utiliser deux points dans un atout, plus on va pouvoir l'utiliser après par la suite.
D'accord.
Donc en soi, voilà, le système est vraiment, vraiment simple.
Il marche bien. Il marche bien.
Moi, je l'ai utilisé, il marche plutôt bien. C'est vrai que voilà, j'ai fait une petite adaptation par rapport à la SAN parce que je trouve que c'est quand même assez intéressant d'avoir ça. D'un autre côté, les personnages, c'est pas leur premier voyage dans la cité inconnue, ils commencent à connaître un petit peu les trucs bizarres qu'il va y avoir. Donc effectivement.
Ils sont habitués un petit peu, ouais.
Voilà, on peut, dans le cadre en fait de cette campagne, on peut faire abstraction, quoi.
D'accord. Au niveau des scénars, c'est que du pool pick. T'as dit qu'il y en avait un où on jouait des chats, c'est vraiment très différent des uns des autres.
En fait, justement, on a des choses assez originales. Moi, c'est vrai, voilà, j'adorais ces jeux où on joue des chats parce que j'avais fait quelques parties sur Cats la Mascarade. Et en fait, notre jeu nous avait fait du Cats version court. Qui au passage d'ailleurs existe vraiment. Il y a vraiment une extension de chats.
L'extension 2, t'as dit?
L'extension de Cthulhu, en fait, on joue
des chats. Il s'appelle Cthulhu.
Cthulhu, voilà, merci. Donc j'ai trouvé ça en fait assez fun et bah, en fait je l'ai réutilisé ce scénar quasiment tel quel sur un scénar de Cats. Donc c'est vrai que ça passe plutôt bien. Après on en a où on va vraiment il y a vraiment du what the fuck. On va partir carrément dans l'espace et essayer de trouver l'un des protagonistes parce qu'il s'est fait enlever. Il y a quoi j'ai beaucoup aimé les deux scénars de Soris, où en fait le premier, il est piégé plus ou moins physiquement dans une cellule. Et en fait, c'est à nous de trouver la clé. En fait, on l'aide à faire un voyage et une initiation. C'est-à-dire qu'en fait, sa cellule, bah, c'est une cellule psychologique. Et en fait, les clés, ce sont les autres investigateurs, donc ses meilleurs amis. Dans la ville, qui en fait sont les clés qui vont lui permettre de sortir. Et ce qu'il y a, c'est qu'en sortant, ben, il atteint le statut de haut rêveur, donc il commence à avoir son propre domaine, ses propres serviteurs oniriques, ses propres démons aussi. Et justement, le deuxième scénar, Nyarlathotep commence à prendre un petit peu ombrage de tout ça.
Bon vieux, là, ce bon vieux Nyarlathotep.
Je me demandais quand il est arrivé aussi.
Faut toujours le faire chier.
Mais c'est tellement emblématique et puis ça colle tellement bien. Et donc en fait,
t'as presque fait le tour, non, Sergissant?
Ouais, j'ai presque fait le tour, là, je finis.
Vas-y.
Donc en fait, voilà, il prend un petit peu l'ombre et en fait, il va empoisonner Soris et c'est à nous de trouver un antidote. Donc c'est vrai que là, on a quand même quelques scénars qui sont vraiment sympas.
C'est original, hein.
Vraiment originaux. En plus, on peut les réutiliser très facilement sur une campagne. Genre, on fait un petit break dans l'Orient Express. Pendant une nuit, on envoie tout le monde à Cadas et puis on fait un petit scénar sur Cadas assez sympa.
Dédicace à Desperate.
Ouais, on va dire ça à Desperate. Ou alors, entre deux voyages entre Shanghai et Sydney, on fait un petit somme et puis tiens, on va se retrouver dans une ville bizarre. Continuer par de la salle.
D'accord.
Voilà. Donc c'est vrai que voilà, en somme toute, c'est une campagne plutôt sympa. Pas forcément à prendre au pied de la lettre parce que c'est pas forcément évident. Il faut avoir les bons joueurs, il faut avoir le bon moment. Mais il y a vraiment beaucoup de matos, du beau matos. Le bouquin de Lemos, j'arrête pas de leur faire des ponts en or parce qu'ils font des beaux bouquins, ils font des bons bouquins. Point d'illustration, ça claque, quoi, on va dire.
D'accord.
Donc, bon. Voilà, une campagne, à mon avis, à découvrir. Bon. Même si on est sur du narrativisme et que toi, tu n'as pas aimé encore.
Mais non, mais si c'est du narrativisme apéritif, ça va.
Voilà.
Bon, ben merci, s'agissant pour cette présentation.
Voilà.
Alors maintenant, nous allons passer, nous allons interroger par Shining. Salut Shining. Ah, il a coupé son micro. Il est là pour marquer. L'amateur. Donc, ben merci pour cette présentation. C'est sorti en même temps que le bouquin. Les deux sont sortis ensemble ou pas?
Le bouquin est sorti un petit peu avant. Pour te dire tout ça.
Oui, il est cité, d'accord. Ils l'ont.
2010. On est sur quoi? 2010. Et puis l'autre, je crois qu'il a dû sortir 2-3 mois plus tard.
D'accord.
Mais c'était imprévu en fait dans le projet de mémoire initiale, c'est que effectivement il y allait avoir du autour.
D'accord. Bon, première chose, je vais commencer par les questions, hein, parce que moi j'aime bien les questions. De base, est-ce que tu aimes masteriser dans les contrées du rêve? Est-ce que tu trouves ça difficile? Et dans l'un et l'autre cas, est-ce que ce bouquin t'a, si tu n'étais pas réconcilié avec les contrées du rêve?
Alors, les contrées du rêve, moi ça me dérange pas. En fait, je considère ça presque comme une pause dans une grosse campagne un peu sérieuse. Ça me permet de, voilà, de détendre un peu les investigateurs qui en prennent plein la tronche. De leur dire, bah voilà, les gars, vous êtes dans un coin où vous risquez pas grand-chose.
Tu joues plus l'onirisme que
je joue plus l'onirisme. Et puis, bon, par contre, la perte de San, que ce soit en rêve ou dans la réalité, elle apprend, quoi. Hein. Ça, c'est le petit cadeau, c'est le bienvenu, on va dire.
Mais ça t'a semblé une bonne façon d'aborder les contrées.
C'est une bonne façon, à mon avis, d'aborder les contrées, puisqu'on a déjà un cadre fixe, ce qui est rare. On n'est pas trop dans je sais pas où on va et ça change tout le temps, c'est le plein chaos, je sais pas comment jouer ça. Là, au contraire, on a vraiment un truc figé, des quartiers qui sont bien expliqués. La lecture du guide, ça se lit comme un roman et on a mis du matos de dingue, quoi.
Beastbuster et Dark Keeper, des questions, des remarques?
Est-ce qu'on voit d'autres créatures du mythe caractéristiques, ouais, des contrées comme, je sais pas moi, les maigres bêtes de la nuit ou les ghouls?
On en voit justement, en fait, tout est. Pas qu'on voit tout, mais on en voit quand même pas mal. Du Chantac, en fait, tu en vois là.
Ouais.
Avec même, tu as des petites têtes de jeu, notre père des Chantac. Après tu vois les pères grands anciens avec qui ont leur propre palais, et chaque palais va être décrit avec les serviteurs qui vont t'as vraiment du boulot, et puis t'as des choses un petit peu originales, genre Itaquois, genre les grands les sans mémoire, voilà.
Ah, d'accord. Cette confrontation avec des trucs, là t'as cité quand même du gros, du lourd, du balèze, ça donne pas une sensation de gros bilisme des PNJ, non,
par rapport au PJ? Non, parce que justement t'as des choses quand même assez simples et fun. J'en prends là le scénario où tu joues des chats. Tu pars sur une guerre entre Bastet et les peuples des Ogs. Les Ogs, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est une espèce de peluche. Quand tu vois, tu gratouilles en disant « Oh, il est mignon, un petit gremlins qui n'a pas muté. » Quand il t'a avalé le bras, tu shootes dedans à tout berzingue. Donc, ouais, en fait.
Et quand tu veux dire que les scénars sont bien dosés, en fonction.
Ouais, les scénars sont bien dosés. Mis à part, effectivement, les énigmes qui sont quand même un petit peu retorses pour moi. Après, je suis pas un grand fan d'énigmes de base, mais c'est vrai que c'est parfois un petit peu un peu capillotracté. Mais ouais, c'est. Non, les joueurs sont pas des gros billes.
Voilà, les retours de tes joueurs sur les scénarios, ils ont appréhendé ça comment? Ils ont compris? Ils n'ont pas trop été décontenancés?
Alors, en fait, étant donné que les scénarios que je leur faisais à côté étaient tellement stressants, entre guillemets, ça leur a fait du bien de se défouler, de partir sur les what the fuck pour changer un petit peu, quoi.
Donc, ouais, c'était vraiment, ouais, d'accord, une option un peu détente, à la Colombo avec des chats, quoi.
Ouais, moi je l'ai pris comme ça, j'ai pris, si je joue. J'aime pas trop jouer en pulp, l'appel. Je joue horreur, donc vraiment stressant, les mecs parlent de la scène à tout berzingue. Là, faire un scénar où on passe sur du pulp et puis. On fait ce qu'on veut, finalement, quoi. On est dans les contrées du rêve. Et ça permet de détendre un petit peu l'atmosphère et puis de raccrocher un petit peu certains joueurs moins fans des grosses énigmes tordues.
D'autres questions, Beastbuster?
Ouais, moi j'aurais voulu savoir comment. Enfin, j'ai l'histoire des gardiens, là, les joueurs qui deviennent tour à tour des gardiens. Là.
Ouais.
Comment tu organises ça? Enfin, tu vois, j'ai du mal à voir comment ça s'inscrit dans la campagne.
Moi je l'ai pas fait. Alors c'est pas, faut pas voir ça comme une campagne suivie. Moi je l'ai pas fait. Après c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi. Si j'avais à le faire, je pense que je prendrais une soirée pour filer, pour expliquer le bébé aux autres joueurs. leur dire voilà comment ça va se passer, comment ça va marcher le côté gardien. Donc fier à la limite le bouquin de règles à chacun, que chacun puisse le lire, puis s'approprier. Après derrière, moi c'est vrai que j'avais fait pas un gros fan de potassage de bouquins. Donc j'avais fait des pages d'aide de jeu entre guillemets qui vont rappeler un petit peu les tests. D'ailleurs j'ai pas parlé, mais l'enveloppe en fait qui tient tous les bouquins, bah, c'est un écran de jeu.
On parle des inégalités.
Ouais, on parle des inégalités.
Ouais, c'est Hollande qui a parlé.
Faire une soirée pour leur expliquer le bébé, puis après leur filer à la limite tour à tour le kit de l'esprit inconnu pour que chacun puisse en prendre connaissance. Et puis leur laisser à chacun les livrets de leur perso pour qu'ils puissent potasser un petit peu les
scénarios. Il y a un truc que j'explicite un peu, parce que moi je l'avais lu, et je l'ai lu, et c'est pour Beastmaster, pour les autres, pour bien comprendre, c'est qu'en réalité, il y a 5 petits recueils, petits fascicules, dans chacun, je crois qu'il y a, c'est ça, un scénar.
D'accord.
Et au dos, t'as la fiche du personnage, c'est-à-dire qu'en réalité, chacun va prendre à l'achat, finalement, du jeu, va prendre un des fascicules, il aura son scénar à maîtriser, un jour, et il aura derrière, pour les 4 autres jours, finalement, pour les 4 autres séances, il aura son personnage. C'est ça le principe, hein.
Les chiffres sont un peu plus gros, mais ouais, c'est ça.
Il y a plus de scénarios.
C'est-à-dire, si on est 5 joueurs, là, tu joues 4 fois, 2, 8 fois, et puis tu fais jouer 2 fois.
D'accord. Ouais, au total, c'est ça. Mais c'est un peu l'idée, c'est de se dire, finalement, chacun a son fascicule, et en piochant dans son fascicule, il sera tour à tour gardien et joueur. S'agissant d'autres questions. Pardon ?
Sur le principe, c'est vrai que c'était sympa, c'était le côté investissement qui était lourd d'un coup.
C'est un peu l'idée, je ne sais pas si vous connaissez le jeu Ars Magica.
Ah bah si.
Ouais.
Voilà, mais c'est un peu cette idée-là, quoi. C'est de se dire, on crée un groupe et finalement le gardien va tourner.
Ah ouais, d'accord.
D'autres questions? Vas-y, pardon. Vas-y.
Et après, j'avais juste en fait encore un dernier bémol. C'est en fait le coût de revient. C'est-à-dire que, mine de rien, le guide de la cité inconnue est à 36 euros.
Quand même. Hein.
Voilà. Et Cadas doit être à une trentaine d'euros également. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que pour le coup, ça fait un poil cher.
En même temps, t'as pas mal de scénar quand même.
Alors, t'as pas mal de scénar, puis t'as quand même une réutilisation qui est assez impressionnante. C'est-à-dire qu'effectivement, tu peux jouer en gardien multiple. Tu peux les réutiliser pour insérer ça dans une campagne. Tu peux faire une micro-campagne en rebossant un petit peu les scénars, de façon à ne pas avoir 5 gardiens, mais un gardien. Et puis, c'est le même personnage qui est toujours absent. Donc non, ouais, c'est au niveau des douze singes, non, il n'y a pas à dire, ça se tient. Après, ben voilà,
Et c'est bien équilibré le fait que tu me dis, moi je suis con, c'est déjà prévu. Le fait que dans un scénario une personne ne soit pas là, c'est déjà prévu vu que c'est dans le même
cycle, ouais. Et c'est parfois complètement hallucinant.
Ah, si je pensais à ça, c'était le scénario d'introduction, il y en a un ou pas?
Il n'y a pas de scénario d'introduction.
D'accord, les personnes elles se rencontrent et se connaissent, quoi.
Voilà, ils se rencontrent, ils se connaissent déjà. Ça fait quelques temps qu'ils rêvent ensemble. Et en fait, je vais vous dire une introduction. Hein. Depuis quelques semaines, Pierrot est préoccupé. Il passe de longs moments enfermé seul dans sa chambre, les yeux en regard. Il semble ailleurs. Puis en fait, il. Dans le même symbole. Voilà. Et en fait, nous, on arrive, lui a disparu. On avait rendez-vous, il a disparu. Et puis, voilà ce qui se passe. On arrive chez lui.
Pas mal. C'est-à-dire que le scénario peut être lancé sur le fait que la personne qui est le gardien n'a pas son personnage présent. C'est ça?
Voilà. En fait, c'est vraiment ça. C'est à chaque fois qu'il y en a un qui est gardien, son personnage est absent.
Et ça peut être le départ du scénar.
Et c'est justement le départ du scénar.
Ah, d'accord.
C'est tout le temps le départ du scénar ?
C'est dans 80% des cas, la plupart du scénar.
D'accord, c'est pas mal.
Le coup des chats, où en fait le mec est en train de discuter avec, une des prêtresses de Bastet. Et en fait, les joueurs pètent une statuette et Bastet, pour le punir, le transforme en chat. Quoi. Voilà. Mais ouais, non, il y a des idées fun.
Messieurs, d'autres questions?
Pour ma part, c'est bon.
Ouais, moi aussi,
t'as dit que c'était narrativiste.
Alors, en fait, c'est narrativiste dans le sens où, effectivement, on va exploser les cadres habituels d'un gardien qui a fait vœu de chasteté et qui ne jouera jamais. Là, effectivement, on a le jeu tournant. Et donc, en fait, chacun peut profiter évidemment des aventures.
D'accord, bon, le côté aussi que ça tourne, un des intérêts, si j'utilise, c'est que justement, voilà. t'es pas obligé d'être saoulé à chaque fois avec le gardien, tu peux te poser un petit peu de temps en temps. Puis à la limite, ça va être assez marrant, parce que si toi, il t'est arrivé quelque chose à ton personnage pendant qu'en réalité, ton personnage n'était pas là, mais t'étais gardien, les joueurs peuvent te demander finalement ce que t'as fait ou quoi que ce soit. Ça peut être des scènes assez marrantes. Ouais. D'accord. Et les scénarios, le point de vue durée, toi, tu... Tu parlais de 4 heures au début, c'est... Ouais, 4 heures,
c'est ouais, 4 heures. 4 heures, en bossant bien un scénar, on peut faire facilement 4 heures.
D'accord. Bon, bah s'il n'y a pas d'autres questions... Bah, c'est vrai que les bouquins sont quand même super beaux, je repensais à ça, de tête. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au moment un peu plus fun du truc, c'est-à-dire si on aimait, si on n'aimait pas, si on connaissait pas. Et suite à ce que tu as dit... Beast Bastard, tu mettrais combien de 1 à 5 sur le fait de vouloir jouer cette campagne?
Pour le coup de la carte.
Moi je suis mitigé, hein. Je suis très mitigé. J'aime bien le côté des contrées du rêve, etc. Mais, non, moi je mettrais 2 ou 3. Quoi.
D'accord, t'hésites encore.
Ah oh, ouais, non, je pense.
Sur
le
format.
Il y a beaucoup de choses à jouer d'autre, quoi, c'est ça.
Tu veux jouer des choses simples avant de te mettre au complexe, c'est ça?
Ouais, c'est un peu tout le temps. Quoi, pour ça.
De ton côté, Dark Keeper?
Moi, je suis pareil, je suis un peu mitigé aussi. Je sais pas vous, mais moi, j'ai toujours vu Kadak un peu comme l'instance finale, quoi. Pour moi, c'était l'une des zones les plus inaccessibles des contrées. Donc, faire jouer les joueurs d'office dedans, ça m'a l'air d'être un assez gros pari. Et puis, faut trouver, je pense, la table motivée pour masteriser, comme vous dites. Parce que... moi, j'étais en train de penser, mais de mon côté, c'est pareil. Les gens m'ont chaud à masteriser comme ça, pas des masses. Mais sinon, je pense que le pari était osé, et puis le livre, même si je le joue pas, doit valoir le détour de la lecture, donc je mettrai un bon 3,5.
D'accord. Moi, de mon côté, c'est vrai que vous avez fait ta remarque est assez juste, Dark, parce que... Ouais, c'est ça, la difficulté de ces choses assez originales, comme beaucoup, c'est trouver les joueurs qui se prennent au jeu, mais là, en l'occurrence, qui se prennent au jeu de finalement maîtriser en tournant. Donc, mais c'est vrai, par contre, l'idée, moi, je connaissais pas trop les contextes, les scénarios, mais l'idée, comme ça, de pouvoir jouer des chats, de pouvoir jouer des trucs un peu particuliers, des morts, des trucs comme ça, ça peut... Ouais, moi je mettrais un bon 4 parce que le bouquin est sympa en plus. Il est bien écrit, s'agissant. Il est bien écrit.
Ah oui, hein, ça se lit très très bien.
Ouais, je mettrais un bon 4.
Puis en plus, bon, c'est vraiment esthétiquement, c'est un beau livre relié avec signet. Non, c'est.
Tu peux y voir, il y a aussi ce côté sympa où tu poses le livre au milieu de la table et c'est l'aide de jeu de tout le monde, donc c'est assez intéressant quoi. Bon, bah super! Donc voici une... On ne peut pas dire qu'on n'a pas fait dans l'original sur Toc. Parce que là, c'est pas très connu. Merci Sérgine, tu peux te reposer jusqu'à ta prochaine intervention. Donc.
Je vais essayer de prendre un peu de voix.
Donc moi je vais vous parler de la bête inhumaine. La bête inhumaine, de toute façon, on est dans les podcasts Mar des Masques, donc il y a des fortes chances que vous ne la connaissiez pas. Si vous ne la connaissiez pas, c'est un scénario qui est publié sur Toc, qui est un scénario gratuit, qui l'a toujours été, qui le restera. Et c'est un des premiers, je crois que même c'est le premier, c'est un scénario de Deadline, C'est Deadline qui me l'avait envoyé, c'est un des premiers qui m'a été envoyé, qui a, je dirais, qui a aussi été un peu au départ de la bibliothèque de Toc pour les scénars. Je l'ai pris assez bizarrement, je l'ai toujours catalogué comme une campagne, alors que c'est plutôt un gros scénario. Ça se passe, donc je vais vous faire un peu le pitch, et pourquoi il faut absolument jouer cette campagne. Alors déjà, cette campagne, la bête inhumaine, aura-t-il le terme derrière. Attention, je vais bien sûr spoiler, hein, c'est un peu le but. La bête inhumaine, c'est en rapport avec les trains, donc les grosses locomotives de l'époque, des années 20, à vapeur. Et pourquoi il faut jouer ce scénario-là? La première chose, c'est tout bête, c'est que la personne qui l'a écrit est un gréviste. Non, je déconne. Il bosse à la SNCF. C'est moche. S'il écoute, il va m'en vouloir.
Personne n'est parfait, hein.
Et ah, donc, ça va être pointu, sur le coup.
Voilà, par contre, c'est... Alors, voilà, le gros intérêt, c'est que sans que ce soit un catalogue du rail, c'est très très intéressant. Parce que c'est très bien écrit. Ça décrit beaucoup de choses, mais pas pas un gros catalogue, un manuel de l'équipement ou manuel des armes. C'est vraiment un catalogue utile. Et surtout, ce qui est décrit sur le fonctionnement des trains et puis tout ce qu'il y a autour, genre le PLM, là, c'est-à-dire le Paris, Lille, Marseille, je crois quoi. Enfin, sur tout ce qui est décrit est super intéressant de fait que c'est décrit avec du détail et surtout c'est exploité dans le scénario. C'est-à-dire que s'il vous décrit la façon dont marche une locomotive, c'est parce que ça va être utile dans le scénario. S'il vous décrit par où passe le train, le PLM là par exemple, je sais plus, je retrouve le nom, qu'est-ce que c'est le PLM, moi je vais regarder. Si vous le décrit, c'est parce que c'est intéressant. Ça va servir dans le scénario, et voilà. Donc c'est truffé de détails, donc ça se passe bien sûr en France, hein, je ne vous le cacherai pas. Ça utilise des créatures vachement faibles. Je crois pas qu'elles soient décrites dans le manuel de base. Ce sont les Nyok-Shoot. Ça vous dit rien?
Absolument non. Rien.
Voilà. Donc, des créatures un peu... C'est un peu en rapport avec les Loagors. Ah, c'est ça, Paris-Lyon-Méditerranée, du PLM. Et on parle aussi de la CIWL, la Compagnie Internationale des Wagons-Lits. Donc, et du train bleu, bien sûr. Donc voilà, c'est un scénario en France, dans les années 20, autour du train. Le fait est que les investigateurs font partie, je crois justement, de la PLM, la compagnie, et ils vont mener une enquête. Ce qui est super sympa, c'est que voilà, le train n'est pas juste genre il y a un meurtre dans un train, non. Tout va tourner autour d'un nouveau mécanisme de refroidissement qui est étudié par les compagnies et par les ingénieurs du train. Et donc en réalité ce nouveau système de refroidissement des chaudières, et ben, il va avoir un léger souci, comme vous vous en doutez. Car pour faire un peu le pitch, il puise l'eau. Je ne sais plus à quel niveau, si c'est près d'Alésia ou un truc comme ça, mais il puise l'eau dans un réservoir où des créatures ont élu domicile. Et ce qui fait que donc l'eau qui est trimballée dans les locomotives et dans des espèces de petites canalisations qui suivent les voies sont infestées par ces créatures. Ce qui fait que par petites touches, très fines et très bien amenées, ces créatures vont soit s'attaquer au conducteur dans un train, soit s'attaquer au personnel dans un autre. Enfin, ça va être une vraie enquête à remonter. Ça va pas être simple. Par contre, le scénario en lui-même est très bien expliqué. Moi, je me rappelle que je l'avais joué et ça dure assez longtemps parce que l'enquête est assez intéressante. C'est truffé de bons PNJ et par la même occasion, c'est truffé de très bons PNJ aussi parce qu'il y a des prêts tirés. Et voilà, ça fleure bon, pardon, la France des années 20, et puis voilà, Il y avait du Raoul Dugré, du Lucien Michaud, du Pierre Chambry, du Pierre Morteau. Vous allez, ce que je vous disais, vous allez passer par Lyon, par Alésia, par l'Aume, par les petits bleds et tout. Vous allez vous confronter, à des gens, des gens standards. Et c'est ça le côté intéressant, c'est que c'est très humain comme campagne. C'est très très abordable. Et ce qui en fait sa force, son côté d'autant plus angoissant. Parce que on sent bien que il y a pas une énorme mécanique en œuvre. Le but, c'est pas de conquérir le monde comme ça, comme on pourrait l'entendre dans les gros scénars. Là, c'est insidieux et c'est très bien dissimulé, quoi. Donc le scénario décrit tout ça très bien et décrit très bien ce que vous devez savoir en tant que travaillant pour la compagnie ferroviaire. Le dénouement est très très fun aussi. Je vais pas vous le dire parce que ça peut être marrant. Les événements qui vont se dérouler sont assez linéaires, enfin pas linéaires, ils sont décrits les uns après les autres. Après, libre, je me rappelle pendant que je l'avais maîtrisé, libre à chacun de les réorganiser et tout ça, donc ça laisse une très bonne liberté aux gardiens. Et comme il y a pas mal de gens à interroger, on a moins l'impression de suivre des étapes les unes après les autres. Et c'est vrai qu'à la lecture, on pourrait croire que c'est un peu linéaire, mais finalement, au jeu, ça l'est pas du tout. Donc il y a des très bonnes aides de jeu, il y a des persos pré-tirés, il y a des dessins, il y a des plans. Les protagonistes, les différents PNJ sont très bien écrits. Et puis il y en a un paquet, c'est ça qui est intéressant. Je crois qu'il y en a pas plus d'une douzaine quasiment qui vont intervenir entre le chef de bureau d'atelier, le chef de district, l'ingénieur de traction, des trucs un peu fun, quoi. Moi qui suis pas. Moi qui aime pas trop quand on m'oblige à avoir un jargon ou un truc comme ça pour jouer à un jeu de rôle. Comme ça, j'aime pas trop les univers trop japonisants ou de la cérémonie du thé et tout, ça me rentre. Là, les choses qu'on vous impose à connaître sont assez fun. Et puis, culturellement, ça vous donne des éclairages sur le monde du train à cette époque-là. En plus, donc, c'est un scénario gratuit, c'est le premier scénario de top. C'est pour ça aussi que pour le 30e épisode environ des podcasts que je me suis permis de faire. Et puis, c'est une dédicace à Deadline et toute cette fine équipe qui était là au début de Toc. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour. Je vais vous laisser. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'esprit. Celui qui aime bien les trains, les scénarios. Alors, pour être précis, le scénario ne se passe pas que à bord du train, bien sûr. Vous avez mis l'enquête autour du train, dans le train, aux différents dépôts, aux différents bureaux et tout ça, quoi.
Il y a une exploration des villes ou quoi?
Pardon?
Petite exploration des villes, Paris, Lyon.
Alors, les villes sont pas tellement décrites.
Il y a le terre de Lyon aussi. Hein.
Voilà, ouais, c'est plus. Je dirais, c'est plus tout ce qui touche au train qui va être décrit. Il y a à chaque fois une petite description de l'ambiance quand même pour les villes. Ça demande un petit peu de boulot si vraiment en effet tu veux te lancer dans la description des plus particulières, des différentes ambiances des villes en fonction des villes elles-mêmes. Mais le scénario lui-même se suffit si tu as, je dirais, une petite capacité d'improvisation et si tu as déjà maîtrisé dans les années folles en France, quoi.
De toute façon, c'est pas quelque chose d'important de débarquer à Paris, Lyon, Marseille, c'est vrai.
Oui, voilà, exactement. C'est vrai qu'on peut assez facilement trouver des recueils de scénarios ou des scénarios qui décrivent les villes en elles-mêmes, quoi. D'autres questions?
Est-ce que la période est vraiment importante? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut transposer ça facilement aujourd'hui? Le fait que ce soit des années folles, ça joue vraiment.
La période est assez importante parce que le cœur du scénario est basé sur le système de refroidissement et la solution qu'ils ont trouvée, Ah ouais, si à la limite ça pourrait être adaptable, mais le but pour être précis, écoutez pas, ceux qui ne veulent pas de spoiler, mais le but c'est de se dire qu'un train dans cette époque-là, il faisait ce qu'on appelait faire l'eau. Faire l'eau, l'apostrophe AU, c'était s'arrêter pour reprendre de l'eau et pour pouvoir refroidir la chaudière, pour faire la vapeur, le chouchou. Et donc il devait s'arrêter, ben voilà, on ne pouvait pas faire un trajet direct parce qu'il fallait s'arrêter à différents endroits, notamment à Lésia et tout ça, quand on faisait Paris-Lyon, pour pouvoir faire de l'eau. Et donc leur but là, c'est de voir des canalisations. Pardon. J'ai envie de mourir. Le but là, c'est d'avoir des canalisations le long des voies où l'eau passerait tout le temps et où donc la locomotive il pourrait aller puiser avec un système directement pendant qu'elle roule. Donc c'est assez délicat de l'adapter parce que le cœur du scénar est basé sur ce truc qui finalement à notre époque est un peu rudimentaire quoi. Mais en y réfléchissant, peut-être que si tu trouves un autre principe lié à l'eau qui puisse être remis à notre époque, ça peut le faire. D'autres choses?
Tu prends combien de scénars à peu près?
Alors le scénario lui-même c'est un seul scénar pour le nombre de séances. Moi je dirais que si tu veux bien diluer et puis bien jouer les PNJ, c'est un truc à 2-3, voire si tu pousses bien 4 séances, quoi. Parce que faut enquêter, parce que voilà, les gens ne parlent pas forcément, parce que c'est un milieu un peu fermé quand même, et que vous menez l'enquête sur des dysfonctionnements. Que, voilà, le fait que ce soit justifié par des trucs pulpiques. Ça tombe pas sous le sens, et les gens vont avoir un peu peur que vous leur voliez dans les plumes ou vous essayez de dénigrer leur travail. Donc ça peut être un peu compliqué à mener comme enquête, donc c'est assez intéressant avec les rapports humains. Ça peut prendre du temps.
Justement, c'était là ma question. Vis-à-vis des rapports humains, il y en a directement entre les créatures du mythe et les humains, ou c'est juste, c'est juste les créatures qui ont infesté le moteur et puis
Alors
qui
non,
perdent.
les créatures ont été s'attaquent plus aux humains qu'autre chose. Elles ne
D'accord,
vont
oui, il y
pas
a quand même un vrai
forcément.
truc, quoi. C'est pas les investigateurs ne se retrouvent pas à faire de la dératisation de
Alors
créatures
voilà,
du mythe, quoi.
c'est pas Christine version train avec le
Avec
train
la
bélier. Non,
gabine.
non, non. Voilà, c'est non, non. Les créatures ont été en passant dans l'eau vont se. Leur but c'est de quand même prendre le contrôle des humains qu'elles peuvent côtoyer, quoi. Donc les premiers accidents, c'est ça qui est assez intéressant et assez fin, c'est que les premiers accidents sont marqués par des défaillances humaines. Donc c'est un savant dosage entre les défaillances humaines et les défaillances mécaniques, parce que c'est un nouveau système. Et que comme c'est souvent rappelé dans le scénar, si on met en cause le système, les mecs qui l'ont conçu vous diront, bah oui, mais on en est au début, donc c'est compliqué, il faut que ça se mette en place, quoi.
Compliqué.
Ok.
D'autres questions ou remarques,
Au
messieurs?
niveau de la montée en puissance du scénario, ça se termine dans un grand carnage, comment ça? Sans trop en dévoiler?
Alors ça dépend un peu comment je dirais l'aventure, comment les investigateurs se mettent dans l'aventure. Mais le fait est que le but, c'est finalement de remonter à la source de l'endroit où sont les. Sur les où sont les créatures, où logent les créatures, et sans que ce soit un final titanesque, les autorités sont en train de faire passer ça pour une bande de personnes qui seraient allées dans une grotte où il fallait pas, il y a eu un éboulement, ça aurait un gaz souterrain qui aurait explosé ou quoi que ce soit, mais le final est assez, pas grandiose, mais assez intéressant du fait que les créatures, on les connaisse pas. Que c'est assez, leur mode de contamination des humains et tout est assez intéressant. Donc, de fait, qu'est-ce que j'ai là, je vais regarder en même temps. Voilà. Si en plus, il y en a une centaine de créatures, quand même, dans la flotte. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que
Pas mal.
c'est pas une créature, mais c'est, une horde, donc va falloir un peu réfléchir pour s'en sortir quoi.
Ah, c'est
Un
pas
peu vite.
forcément du scénar à faire en pulp pour vous sur tout ce qui bouge.
Non, voilà, non, c'est plus du scénar calme de réflexion. Je dirais que c'est un scénar qui aurait très bien pu faire partie du recueil de Tristan l'Homme là sur Paris. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais le recueil qu'il a sorti, ils ont sorti chez Son Détour sous un ciel de sang.
Ah oui, d'accord.
Ouais, donc un scénario très ancré dans l'époque, très ancré dans la région, dans les régions à la France, et très ancré dans le monde de ferroviaire.
Et au niveau des autres jeux, la matière, enfin, il y a pas la partie sur les trains, mais au niveau des choses.
Il y a vraiment de quoi faire. Tout ce qui est lettres, tout ce qui est portrait, tout ce qui est plan, enfin tout ça, ça avait été. Bon, c'était les débuts des scénarios, surtout qu'on n'était pas à fond rodé, mais c'est très bien. Il y a vraiment de quoi faire. Tout est là au niveau du scénar. C'est vraiment. Je dirais, c'est vraiment clé en main. Avec les prêts tirés, c'est vraiment clé en main, quoi. Ça marche bien. Là, par exemple, pour les investigateurs, il y en a un paquet. Aliénor de Bragance, qui est une jeune dame de la haute société. Il y a Michel Grenier, qui est inspecteur de police des chemins de fer. Gaston Margoulet, qui est journaliste au Progrès de Lyon. Il y a Thibault Lerouville, qui est journaliste à la revue interne du Paris-Lyon Méditerranée. Là. Alain Moreau, qui est ancien accompagnateur des wagons-lits. Mathieu Bessure, qui est sous-chef de dépôt à La Roche. Ça fleur bon, quoi. Gabriel Guillaucourt, qui est ingénieur des mines. Et Charles Charansac, qui est un cadre influent d'une des compagnies. Et qui est responsable du train bleu. Donc voilà, c'est...
D'accord. Oui, il y a de la manche, quoi.
Voilà. Et pour les créatures, pour revenir un petit peu, leur description, c'est pas des gros trucs mutants et tout ça. Ça ressemble plutôt à des méduses à tentacules, quoi. Un peu corrosives.
C'est voilà. Vrai, c'est scénario pour des débutants.
Très très bon pour des débutants, ça. Surtout si, je dirais que ce sont les maîtres ou les joueurs. Surtout, tu vois, si ils ont un peu de mal à se mettre dans un autre pays, comme les États-Unis et tout ça, une époque en plus différente. Là, c'est beaucoup plus abordable du fait que c'est en France, que ce soit en France. Donc c'est pour des. En plus c'est. Je dirais que la majeure partie du scénario, c'est une enquête sur des gens qui ont fait des erreurs, qui ont pété un câble, quoi. Mais c'est pas une enquête directement pulpique, horrible, quoi. Donc c'est vraiment très abordable, ouais. D'autres questions ou remarques?
Bah, non. Bon.
Alors, monsieur Dark Keeper, combien mettrais-tu à cette superbe grosse aventure, 2 à 5.
Eh bien, on a pas mal de trucs. Apparemment, tel que déjà dans le contenu, tel que tu l'as présenté, ça a l'air d'être assez complet. Après, dans la trame du scénario elle-même, je demande à voir. Parce que je sais pas, on sait pas en trop. Bon, apparemment le synopsis de base que tu as développé, moi je le trouve très très bon, donc c'est un bon point. Après, à voir comment va s'orchestrer les différentes scènes. Si ça sort du classique long trajet avec un drame à chaque étape, ce serait une très très bonne chose. Après, je mettrais un bon 4.
Ouais, tu peux mettre un 4 parce que c'est vraiment pas genre on monte dans le train, il se passe une chose à chaque fois qu'on descend. Hein. On met l'enquête un peu partout sur la ligne.
D'accord. Parce que moi, je verrais bien, je sais pas comment c'est orchestré, mais moi, j'aimerais bien un scénar, par exemple, sur justement le train, mais où tu vas genre enquêter dans les entrepôts où sont stockés les rames quand elles sont pas utilisées.
C'est exactement ça.
D'accord. Donc ouais, ça a l'air d'être vraiment.
Une bonne partie où justement tu vas aller dans les bureaux, tu vas aller dans les entrepôts, tu vas aller au dépôt et tout ça, c'est vraiment. Ouais.
D'accord. Ben, un bon 4, voilà.
Ok, Bisbestard.
Moi, je suis plutôt séduit hein, par le scénario aussi. Quoi. Les scénarios où il y a un bon ancrage dans le réel. Quoi. Avec
ouais.
Ça joue sur le train et que ça serve le scénar. Et, non, moi, je trouve ça très, très. Moi, j'ai très envie de la lire.
Tu mettrais combien, là? J'ai pas entendu. 4,5. Ah, cool. Sergi, sans de ton côté?
Ouais, je mettrais peut-être un 4, parce que moi, je connais aussi ce qui sort un peu de l'ordinaire. Voilà, le voyage en train, c'est pas comme si on en voyait tous les jours, hein, en ce moment. Mais là, la façon dont c'est abordé, ça a l'air assez sympa. Et puis, le fait de ne pas avoir des créatures identifiables.
Que, oui, d'avoir des créatures originales, ouais.
Là, je disais, même pour des... c'est bien bon pour des points nouveaux. Je pense que même pour des personnes qui connaissent bien l'appel, ça peut être pas mal aussi. Donc, voilà, 4.
Deck. Bon, bah super. Nous avons été rejoints sur ces entrefaites par Dweller. C'est Dweller. Ah, il est peut-être pas devant son PC, il est peut-être toujours avec sa belle famille, il a branché le PC pour faire le mettre sur un PC. Vous êtes arrivé, c'est pas. Vous êtes passé
au
36. Ouais, mais il parle pas.
Salut. Salut.
Bah si, il dit Dweller. Ça va, Dweller?
Il faut lui découvrir la bouche, hein, sinon ça marchera pas.
C'est bien ce Dweller, hein? On entend pas. On entend pas, Dweller.
Après, tu sais, les réunions familiales en profond, c'est toujours bizarre.
C'est comme finir dans les deux bouches et un des membres de la famille. Donc, on va partir pour finir avec toi, Serge Gisson. Ta deuxième intervention concerne une très bonne campagne.
Ouais, là, c'est du monument. Là.
À toi, Joey.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on va parler d'un magazine pas très connu qui s'appelle Casus Belli. Une espèce de truc bizarre qui marchait bien il y a... Ouais, voilà. Le vrai, le seul, l'unique, celui qui a 15 ans. Ouais. En fait, c'est une série de scénarios qui était sortie pour la fin 99. À l'époque, on pensait encore que l'an 2000, on allait avoir un magnifique bug informatique. Et en fait, Casus est sorti pour l'occasion une grosse campagne sur fond de fin du monde, d'apocalypse, de passage à l'an 2000. En fait, les investigateurs sont contactés par un de leurs amis qu'ils ont rencontré il y a quelques temps, qui est devenu propriétaire d'une grosse société de recherche. Les limites entre le scientifique et le paranormal. Et en fait, en plein dans la soirée, ils se font demander par un SDF qui leur remet une espèce de cube, matière bizarre, en baragouinant qu'il faut retrouver les six autres, des trucs bizarres, qu'il faut absolument sauver le monde, enfin, un truc, n'importe qui voit ça, il part en courant, quoi. Ce qui les fait rester, c'est que le resto, l'étage qui est utilisé pour la réception, se fait carrément attaquer par un sociopathe de première, qu'on appelle le boucher.
Le lancement de la campagne est excellent.
Ah ouais, le lancement de la campagne est vraiment splendide. Et, moi, je sais pas, je l'ai toujours représenté comme un Arnold Schwarzenegger. Uzi dans une main, feuille de boucher dans l'autre, ça marche très bien. Surtout dans le mythe, je crois que cette description a été inspirée par justement l'un des gros points forts de campagne, c'est qu'il donne énormément de pistes pour des effets sonores, des ambiances musicales. Et effectivement, l'ABO du boucher, c'est l'ABO de Predator 2. Donc c'est vrai qu'il y a Schwarzenegger là-dessus, ça marche vraiment très bien. Donc nos pauvres investigateurs se retrouvent avec ce cube, ils savent pas trop comment ça marche, et en fait ils vont devoir retrouver 6 poignards qui vont leur permettre de débloquer le cube et d'empêcher l'arrivée d'une bête innommable le jour du nouvel an de l'an 2000. Donc on part un petit peu sur une campagne à la masque, on va faire un petit peu le tour du monde, dans des situations parfois un peu incongrues. On reste quand même sur du scénar à Casus, c'est-à-dire que on est dans un magazine, on n'a pas forcément beaucoup de pages, Donc, on donne énormément en peu de descriptions. Les épisodes font, allez, je crois, même pas une page, format A4, hein, à l'heure actuelle. Donc, c'est vraiment du très très dense. Par contre, c'est écrit de façon superbe et moi je sais que j'ai beaucoup réutilisé cette.
Il est très connu l'auteur, enfin les auteurs, je sais plus,
J'ai
mais
perdu
c'est très connu.
les noms des auteurs, c'est honte à moi.
C'est des gens très connus, je crois.
Attends, je vais essayer de remettre la main dessus. Donc c'est vrai qu'en plus ils ont une façon
T'embête
d'écrire.
pas, t'embête pas, tu
Ouais.
cherches.
Alors, ils ont une façon d'écrire qui est assez sympa parce qu'on parle vraiment par flash, par mots-clés, par je sais pas, on prend une description, on va avoir en quatre mots une ambiance visuelle, une ambiance physique, des références au cinéma, voilà. Donc c'est vrai qu'on a vraiment des choses assez sympas. Et puis la grosse originalité, c'est qu'on a des moments entre guillemets de pause. Puisqu'en fait, cette quête des poignards, quand on prend un poignard et qu'on le fait toucher le cube, on part dans un Nexus. Et là, on part, on ne sait pas où, on ne sait surtout pas quand. La première fois, c'est dans l'Égypte pharaonique, où on se retrouve dans le corps d'un cadavre qui est à la limite de se faire embaumer. Donc, je vous laisse imaginer les situations assez bizarres. Les gens vont devoir se faire expliquer que non, non, je ne suis pas mort. Ouais, non, on t'a enterré hier. Ouais, mais non, non, je ne suis pas mort. Voilà. Et surtout.
Tiens, je suis en train de voir ça a été adapté pour Savage World sur
Ouais,
le Zen.
alors ça a été adapté sur Savage World pour le Zden. Moi, j'ai pas fait jouer la version de Casus. Je les ai lus. Je me suis juste pas rendu compte qu'il y avait une deuxième saison. Par contre, je l'ai fait jouer sur la version pour Trinité, ben justement, protéger les 12 singes là. Et c'est franchement excellent, quoi.
Christophe Debien, ouais, le
Christophe Dubien,
Christophe
merci.
Debien et Patrick Bowen, ouais, tout à fait.
Merci. Et c'est
Chris
vrai
et
que
Pat.
pour le coup, ils ont fait un super boulot. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est vraiment adaptable à tout. On n'a pas de grands méchants clairement identifiés, donc la bête, ça peut être le Sphinx noir de Nyarlathotep, ça peut être Nodens qui débarque. On peut faire vraiment ce que l'on veut avec ça.
C'est pas un scénario pour l'appel de Toulouse de base.
Au départ, non, c'est pas pour l'appel de Toulouse, c'est pour du Savage
Même moderne, quoi.
World. Voilà. Mais vraiment, on peut en faire ce qu'on veut. Et donc ça donne des choses assez sympas. Donc la construction ben, est relativement linéaire, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va alterner un épisode de recherche à notre époque, où on n'a pas trop de contraintes de temps, c'est-à-dire qu'on est relativement libre. Ce qu'il y a, c'est que de toute façon, si on tarde trop, le boucher mettra la main sur ce poignard. Donc forcément,
Attendez, bonjour.
Ah, tiens, salut!
Salut,
Salut,
Dollar.
aïe, ça marche.
Attends ton dollar.
Il est vivant.
Sergi, vas-y, Sergi,
Donc,
on est en train de parler du réseau divin.
C'est ce que j'ai écouté, ouais.
Voilà, donc on n'a pas trop de pression au niveau du temps quand on est de nos jours. Si ce n'est cette épée de Damoclès qui est le boucher, qui va revenir régulièrement. Je crois que quasiment tous les 2 ou 3 épisodes, on le rencontre et puis à chaque fois, on manque de se faire assassiner, quoi. Mais ça sert juste de tremplin pour faire avancer, pour continuer. Et puis pour dire aux joueurs que ben voilà, c'est pas une problème de santé et que à un moment, il faut avancer. Et puis après, on a ces passages dans l'histoire avec un grand H. On va partir quand même en plein Égypte, on va partir faire de la piraterie avec Morgane, qui est un très très grand pirate réel. à essayer
Tu peux
de.
nous donner un peu les liens entre ces scénarios-là et la trame principale?
Alors, en fait, ces scénarios-là vont nous permettre de récupérer des poignards à travers le temps. C'est-à-dire que quand on arrive à récupérer le poignard à travers le temps, ben, quand on se réveille, il se matérialise dans nos mains. Donc, ça permet, si jamais les investigateurs ont un petit peu de la merde sur les autres scénars, de rééquilibrer un petit peu et de se dire, bon, effectivement, on n'a pas tous les poignards, mais le boucher ne les a pas non plus. Donc, ça, voilà, ça me remotive un petit peu, on peut avancer un petit peu comme ça. Sachant que, bien sûr.
C'est intéressant, ça veut dire que ce que tu dis, c'est qu'on peut, on a quand même le droit de merder un scénario dans une autre époque.
Ah, complètement, complètement. On a le droit de foutre en l'air un scénario, même dans notre époque, en se disant, bon, au bout d'un moment, on comprend un petit peu la logique de la campagne. On se dit, bon, effectivement, là, on a fait un peu de la merde. On a, entre guillemets, la session de rattrapage avec le scénario historique, quoi. Et puis, inversement, on peut se dire, bah voilà, zut, j'ai fait de la merde sur le scénario historique. Il faut vraiment que le scénario réel, je le réussisse. Donc, ça donne aussi une motivation pour les joueurs. Et c'est somme toute assez sympa. Et puis, on a aussi bah, ces scénarios historiques qui dépaysent complètement. Parce que, voilà, comme je disais, on passe de l'Égypte à la piraterie, à l'Inquisition espagnole, la sortie du Moyen-Âge. Enfin, on a vraiment des choses qui nous changent. Un petit peu, voilà, comme une partie de contrée du rêve dans un scénar, une campagne un peu lourde. Ben, ça permet voilà, de prendre un petit coup d'air, de se dire, bon, ok, on risque pas grand-chose. Ça, on se le dit la première fois. Et après, quand on voit qu'en fait, ben, on était dans le coma pendant 48 heures, que, si on est un gardien un peu vache comme moi, bah tiens, les blessures qu'on a pris, bah, on a un petit peu ce que j'avais appelé l'effet Matrix, c'est-à-dire que ce qui se passe dans le rêve, bah, ça arrive dans la réalité. C'est-à-dire que ouais, j'ai fait une hémorragie interne dans le rêve, puis le mec il se réveille, les médecins sont autour de lui, non, vous bougez pas, vous avez fait une hémorragie interne.
Ah oui, d'accord.
Ouais, ok.
Ah, quand même.
Ah, ouais, j'avais été dégueulasse. Mais ouais, c'est vraiment des bonnes choses. Et puis, bah, on a vraiment une montée en puissance, puisque on commence, même le boucher est de plus en plus armé, il est de plus en plus accompagné. C'est-à-dire qu'il commence, il est quasiment tout seul, il a son couteau de boucher et un ouzi. On finit, il a une petite armée avec lui, il a utilisé un virus informatique pour paralyser tout le monde. Il arrive avec le lance-roquette, il a fait du boucher, quoi.
Donc, ils ont moyen de l'arrêter avant, le boucher, ou pas?
Non. Non, le boucher est tablé
de façon... Il le rencontre pas.
Alors, on le rencontre. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on se fait botter le cul, parce que ben, il envoie quand même du pâté, le vieux, hein. Par contre, il n'est pas prévu que les joueurs tuent le boucher au départ. Donc effectivement, ils vont l'abîmer, ils vont le blesser, le mettre quasiment mort, le mec il va sauter par la fenêtre et puis il va disparaître. Voilà. Mais c'est pas prévu que le boucher soit buté avant le dernier scénar. Quelque part, ça donne aussi une belle némésis. Parce que voilà, c'est le genre de mec... Bon, on s'est rencontré trois fois, deux fois on s'est fait prendre la tollée, la troisième on a réussi à le buter, mais bon, il revient. Est-ce qu'on va y arriver une quatrième fois, quoi? Donc c'est vrai que ça donne des choses assez sympas. Ça m'avait beaucoup, ça m'a vraiment beaucoup plu, quoi.
Juste, t'as parlé de l'ambiance et tout ça, est-ce qu'il y a des aides de jeu?
Ouais, alors les aides de jeu, il n'y en a pas en tant que tel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cartes à donner, ça va être à vous de créer tout ça. Par contre, il y a énormément de didascalie, je dirais, sur les BO. Par exemple, voilà, on va arriver dans une espèce de boîte. De repères à plusieurs plusieurs malfrats, ben en fait, quand on arrive, le premier truc qu'on voit, c'est musique techno. Entrée, ben voilà, on rentre par des wagonnets, machin, et on a d'emblée le type de musique qu'on va pouvoir utiliser pour donner notre ambiance. On va utiliser la BO d'Akira, je parlais de la BO Predator 2, donc c'est des choses qui sont assez facilement identifiables. À trouver, c'est super facile.
Ça rappelle un peu le scénar de Casus Belli qui s'appelle Le regard de l'abîme, qui était aussi truffé de, pour cette scène-là, mais était la piste numérotant de tel CD, c'est
ouais.
Un peu ça l'idée.
Ouais, il y avait ça, et après il y a aussi un petit truc que moi j'avais beaucoup aimé, alors c'est pas de l'aide de jeu pour les investigateurs, c'est de l'aide de jeu pour les gardiens, c'est qu'en fait chaque épisode commence par une citation. Alors, effectivement, citer Bruce Willis au départ d'une citation...
Il piquait le surfaker.
Ouais, voilà. Mais quand on a des petites choses, enfin, j'en trouve, mais...
I'll be back.
Premier épisode, voilà, et tombent les anges de feu, on a l'apocalypse. Donc c'est vrai qu'instinctivement, on se dit, ouais, effectivement, il va falloir que je le joue de façon apocalyptique, jugement dernier... là, c'est carrément Dieu qui envoie ses troupes pour buter tout le monde, quoi. Quand après, je prends le deuxième, donc on va faire des recherches, tombeau des héros et le cœur des vivants. Ouais, effectivement, là, voilà, on sait qu'on est sur quelque chose déjà de plus posé. Va falloir faire de la recherche, va falloir qu'on aille fouiller l'histoire avec un grand H pour essayer de s'en sortir. Donc c'est vrai qu'effectivement...
Est-ce qu'on croise le boucher, est-ce qu'on croise dans les épisodes historiques ?
Non, je ne croise pas dans les épisodes historiques. C'est justement ce qui fait la pause des épisodes historiques. On a un compte à rebours, c'est-à-dire que le cube nous dit, voilà... donc c'est vrai que la première fois, ça passe, les joueurs n'ont pas du tout fait attention à ça. C'est-à-dire que le cube débarque et puis on a... Le décompte qui commence, donc on a 48 heures, 59 minutes, 59 secondes, 58, 57, 56.
C'est bon, ça.
Et voilà, les joueurs n'ont pas du tout fait attention à ça. Et en fait, après, ils se sont dit, ah ouais, mais attends, c'est vrai que de toute façon, on ne pouvait pas sortir de ce voyage temporel au-delà de 40, avant les 48 heures. Donc, c'est-à-dire que même si on récupère le poignard, avant la fin des 48 heures, après, il faut le garder jusqu'à la fin des 48 heures. Si on s'est fait des super potes qui veulent nous arracher la gorge parce qu'on est hérétique, ouais, j'ai récupéré le poignard, c'est bien, maintenant j'ai l'inquisition sur le dos, il faut que je le sauve. Il faut que je trouve, faut que je reste 12 heures sans me faire choper. Donc, ouais, c'est vrai qu'on ne voit pas le boucher, donc on n'a pas cette pression monde réel, mais on a d'autres pressions derrière.
Dick.
Voilà.
T'as fait le tour ?
Juste un petit truc assez drôle aussi, toujours dans les voyages temporels. On a des prétirés donc pour ces moments-là. Il précise, hein, on n'est pas obligé de garder les sexes d'origine des PJ. Il y a que le joueur qui ne joue que des hommes parce que il aime pas jouer des femmes et voilà. On peut très bien là pour le coup. S'amuser avec lui et lui dire, ben voilà, mon Dieu, tu joues une prostituée. Eh ben, amuse-toi avec ça. Donc c'est vrai que ça donne... Moi, je me suis amusé avec ça, avec certains joueurs. Après, c'est vrai qu'il y avait un truc... moi, j'ai fait jouer sur Trinité. Trinité, je joue également beaucoup sur les vies antérieures. Et en fait, ben, j'avais un personnage qui, en fait, a retrouvé sa propre vie antérieure. Alors, c'était pas lui qui jouait sa vie antérieure, il jouait... un second, mais il s'est vu lui-même. Donc c'est vrai que ça donne des échos assez sympas. Et c'est des petites idées comme ça qui peuvent être très facilement à la table. Et à la limite, même, je conseille, si quelqu'un veut le faire jouer, faites par exemple un petit scénar avant, un ou deux petits scénars avant, justement, avec la rencontre de ce PNJ qui va commanditer les investigateurs. Et n'hésitez pas à utiliser les vies antérieures des joueurs. Genre, je sais pas, ils vont voir une voyante, puis ils commencent à avoir des flashbacks de ça, parce que ça donne vraiment une plus-value à ces voyages temporels.
Voilà. Okay. Tu es good?
Je suis good. Si petite question qui risque de venir, La première, première partie, il y a 12 scénarios de mémoire. Avec la deuxième saison, on en a 20.
Ah, c'est du long cours. Hein.
C'est du long cours, mais honnêtement, ça le fait.
Puis c'est ruiné, il y a quelqu'un qui a un crapaud familier.
Oui, il y a une souris crapaud.
Un crapaud buffle.
Le truc, c'est que c'est vraiment organisé, c'est ce qu'il disait sur la licence, c'est vraiment organisé saison et puis épisode. Mmh. C'est vraiment le but du truc. Juste une petite question, parce que je m'en souviens plus. Les passages dans les parties historiques sont bien amenés, ça se passe comment ?
Alors, en fait, c'est amené entre guillemets un petit peu comme un cheveu sur la soupe, hein. C'est-à-dire que.
À cause du cube ?
Bah voilà, c'est le cube en fait qui fait tout.
Je me rappelle plus, il y a un signe de coureur ou pas ?
Pas du tout. En fait, c'est quasiment. Moi, j'avais fait jouer comme un accident. C'est-à-dire que le mec, il a le poignard, il a le cube, et en fait, c'est une force extérieure, quoi, qui, comme deux gros aimants, qui force à poser le poignard sur le cube. Et sinon, c'est vrai que les joueurs peuvent passer complètement à côté s'ils n'ont pas l'idée de poser le poignard sur le cube. Voilà.
Mmh. Justement, ce truc-là, avec le cube, ça fait pas trop... gadgets, genre ils vont faire les cons avec et tout ça, non ?
Moi, ils ont essayé, ils ont essayé de le détruire. Ça a disparu, c'est réapparu dans la poche d'un des investigateurs.
D'accord.
En fait, c'est prévu par le scénario, c'est un objet indestructible qu'on peut perdre. Il y a moi, carrément un moment où le boucher peut rentrer en possession du cube. Donc, c'est vrai que les figures sont prévues, mais en fait les joueurs se rendront assez rapidement compte que ce cube est
c'est pas s'en débarrasser.
Ils ont même plus envie en fait de s'en débarrasser.
D'accord. Messieurs,
une question. Ouais, moi j'ai une question. Si je dis pas de bêtises, parce que j'ai un peu raté des bouts, mais il me semble que la campagne était ancrée dans le passage du millénaire et que du coup la jouer 15 ans après, il n'y a pas quelque chose de daté et un petit peu de périmé, quoi.
Super tout. La première saison, il faut vraiment la jouer fin 99. C'est vraiment important.
Ce que dit Dweller, c'est est-ce que la jouer à notre époque, c'est-à-dire la jouer, nous, en tant que joueurs, en 2014,
ah,
ça ne perd pas de son sel.
C'est ça. Puisque, si je ne dis pas bêtise, elle est sortie avant le passage du millénaire, donc c'était un peu le côté, comment il s'appelait ce film
End of Days.
Bref.
Non, la fin des temps, non
Strange Days aussi, qui était un peu sur cette espèce de fureur du passage du millénaire.
Ouais. Alors, oui, effectivement, c'est vrai que le jouer de l'heure actuelle... un petit peu plus compliqué. Moi, après, honnêtement, je l'ai fait, ça passait relativement bien. Faut dire aussi que mes joueurs, je l'ai fait jouer donc sur autre chose. Et le jeu commençait en 2001. Et en fait, c'est vrai qu'on n'utilisait pas l'effet 99-2000. Il y avait d'autres mécaniques derrière. Mais les joueurs, de toute façon, étaient prévenus qu'on allait jouer avec 9 ou 10 ans de décalage. Donc, c'est passé relativement bien.
D'accord, tu veux dire que le côté passage du millénaire, on peut le zapper du scénario sans que ça perde de son sel.
On perd quand même toute une euphorie, toute une...
Il faut quand même un contraste. Il faut quand même un contraste entre une période un peu festive et le côté boucher noir,
c'est
ça.
Puis ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a un chronomètre qui tourne, quoi. C'est-à-dire qu'il faut quand même expliquer aux investigateurs que le passage de l'an 2000, il y a quand même le bug de l'an 2000, c'est un truc qu'on la frousse, quoi. Là, si tous les PC vont sauter... se passer. Donc,
dans ce style-là, est-ce qu'on pourrait se baser par
avant l'élection d'Obama.
Ouais, voilà. est-ce qu'on pourrait se baser sur, par exemple, une grosse éruption solaire ou un truc un gros truc un peu apocalyptique.
Alors, si on arrive à en faire une. Moi, j'avais pensé le refaire par rapport à décembre 2013, où il y avait eu le calendrier Maya.
Et puis Shadowrun.
Voilà, Shadowrun aussi. Donc, c'est vrai qu'effectivement, si on arrive à trouver un gros event comme ça, qui. Il y a à la fois un petit peu le côté superstition et le côté emblématique d'un passage temporel. Ouais, pourquoi pas. Ça peut être réadapté 10-15 ans plus tard.
Parce qu'il faut qu'ils en soient conscients dès le début ou il faut qu'ils découvrent ?
En fait, il faut qu'ils soient conscients que le temps tourne.
D'accord.
Et que, en fait, le temps, ça va être le pire ennemi des joueurs. Le boucher... c'est une némésis. De toute façon, on se dit assez rapidement qu'on le croise une fois, deux fois, on va être amené à le recroiser, on n'arrivera pas forcément à le battre de suite. Le but, c'est plutôt de sauver ce qui est sauvable. Mais le temps, par contre, lui, on ne peut rien faire.
Et
rien
faire. Justement, sur ce côté boucher, intuable avant la scène de fin, on est dans une période où on aime bien les trucs non linéaires. Ça ne devient pas rapidement quelque chose qui est un peu trop visible, le fait qu'on ne peut pas le buter avant la fin?
Alors en fait, première fois, mes joueurs n'ont pas réussi à le buter. Ils l'ont rencontré 4 fois. La première fois, ils n'ont pas réussi. Deuxième fois, ils ont réussi et le mec, en fait, est tombé d'une falaise. Ils l'ont retrouvé un peu plus tard. Ils se sont dit, c'est possible, on l'a buté. On n'y arrivera pas. Et en fait, la troisième fois, ils ont carrément fui. Bon, c'est pas possible, on va encore passer 3 plombs, on va essayer de le flinguer. Peur de rien. Donc, on va essayer de sauver ce qui est sauvable et c'est courage, fuir. La dernière fois, par contre, ils sont tous mis et effectivement, c'était la fois finale. Quoi.
Quand on était, oui, il y a une certaine. Au-delà du côté imbutable, ça a donné une notion de finalement de. D'échecs, enfin de petitesse des joueurs face finalement au mal, quoi.
Ouais, et puis c'est comme ça qu'il est. C'est-à-dire que quand on commence, moi j'avais donné mes citations au début d'épisode aux joueurs, et quand je dis qu'effectivement le premier je l'ai fait version voilà, c'est le dieu qui s'abatte, le boucher, j'en ai fait un fanatique religieux. Lui, c'était l'instrument de Dieu, quoi, qui voulait raser l'humanité. Donc c'est vrai que ça rentrait.
Dieu, mais quel Dieu ?
Le grand le seul, quoi. Celui que les gens connaissent.
Celui avec la barbe.
Voilà, le vieux.
Ah, un Odin.
Le vieux, quoi. Voilà, le vieux qui dure les piliers, quoi, dans l'eau.
Et en fait, effectivement, au fur et à mesure, ils ont commencé à douter un petit peu de cette vision que je leur ai donnée. Surtout qu'en plus, le boucher a une gueule de zombie, on prend Freddy Krueger et on lui colle une feuille de boucher dans la main, quoi.
Donc, pour la jouabilité, tu le séparais une séance, un épisode?
Alors, ouais, je faisais une séance, un épisode.
Et ça tenait bien?
C'est vrai que je les ai quand même pas mal bossés, je les ai pas mal avancés, j'ai rajouté pas mal de course-poursuite, d'énigmes, d'enquête, voilà. Et aussi, j'ai laissé les joueurs complètement libres. C'est-à-dire que s'ils avaient envie de faire quelque chose, après tout, j'avais du temps, on le faisait, quoi.
D'accord. D'autres questions, messieurs ?
Qu'est-ce que tu trouverais comme défaut éventuel, parce que...
L'implication du gardien. Parce que on est encore sur du scénar très court. Ouais, un scénar, un épisode, voilà, tiens, j'ai le premier épisode. Le premier épisode, c'est une page, selon la repagination là, du doc. Donc, franchement, tenir 4 heures avec une page de texte, quand même broder et avoir quelques idées sous le pied. Ça n'a pas été
augmenté pour Trinité et tout ça.
Alors en fait, ça a été augmenté pour Trinité, c'est-à-dire qu'on a plein d'aides de jeu qui sont arrivées. D'ailleurs, si vous voyez, ils sont normalement en ligne sur le site des 12 singes. Et effectivement, c'est complètement adaptable. Après ce qu'est la Trinité, le contexte général a carrément été entièrement modifié.
D'accord. C'est-à-dire
qu'ils ont intégré ça réellement à l'univers de Trinité en en faisant quelque chose. Ils ont gardé la trame principale, ils ont changé tous les engrenages qui sont derrière.
D'accord.
On a une même trame, on a une même, même enquête. Les mêmes lieux, les mêmes façons de résoudre les enquêtes, mais derrière, on a quand même pas mal d'autres choses.
Et est-ce que c'est tentaculisable ?
Ouais, largement. Largement. En fait, tu prends, tu te poses sur Delta Green, et mis à part que tu joues en France, aucune objection.
Je voulais plutôt dire dans les fondements qui sont derrière, ouais, hein, le boucher, ouais. Dieu, ce que tu veux, est-ce que tu peux réellement le rattacher au maître ?
En fait, c'est simple. La bête qui est à la fin, t'as aucune description. En fait, sauf si t'as un univers sur lequel tu le rajoutes, tu fais ce que tu veux après.
Le boucher, genre un avatar de Nyarla Totem.
Tout ce que tu veux. Et en plus, la première saison se finit. On arrive enfin à flinguer le boucher. Moi, on a peut-être enfin réussi à le flinguer, mais on n'est pas forcément sûr. Effectivement, la deuxième saison, de ce que j'en ai vu, commence à apporter des réponses sur qui était le boucher, pourquoi il venait, etc. Et la première saison, t'en fais deux. Il n'y a pas de réponse donnée finie. On laisse les joueurs sur pas mal de choses. Le seul gros avantage qu'ils ont, c'est que voilà, ils ont réussi à sauver le monde pour l'an 2000. Déjà énorme.
Après, c'est ce qui en a fait d'ailleurs un des gros succès de la campagne, c'est justement ce côté très couteau suisse, tu veux inclure ton méchant, et ben ça sera ton méchant quoi. C'est ce qui en a fait un de ses gros succès, c'est que c'est pas le scénario lui-même, il a des directions, mais finalement ce que tu mets dans le fond, c'est vraiment toi qui choisis quoi. C'est ça le gros intérêt, je pense. Ça pouvait être, ça peut être une campagne pour vampire, ça peut être une campagne pour, enfin un peu tout quoi.
Qu'est-ce que tu veux avec ça hein?
Bon pour moi.
Est-ce que... Attention, il y a Dark Keeper qui rumine, faites gaffe. Non mais j'entends surtout, je sais pas ce qui se passe du côté de ton micro, Vonf, mais.
Allô?
Oui, c'est bon. La question que j'avais, c'était au bout d'un moment, est-ce que ça devient pas trop répétitif à chaque fois de te prendre il faut retrouver, allez, un autre poignard, et allez, on le met sur le cube, et allez, on va dans le passé, et on retrouve un autre poignard, et ainsi de suite.
Non, parce que t'as quand même une grosse pression qui est donnée sur les joueurs. En fait, cette pression fait que les joueurs vont avancer, ils leur laissent pas le choix. Et le temps tourne, il faut sauver le monde avant l'an 2000.
D'accord.
Et on commence quand même début décembre, hein, donc on n'a pas
si mois pour faire.
On est 1er décembre, on a 1er décembre 22h, on a un mois moins une journée, quoi. Et ouais. La première journée, elle passe juste à essayer de comprendre finalement ce que c'est le cube, les expériences qu'on peut faire dessus, et puis quelles peuvent être les pistes pour trouver l'objet, quoi.
D'accord.
Oui, deuxième question. Une chose que j'ai oublié d'ailleurs, les épisodes on peut les faire dans n'importe quel ordre. Ça c'est bien.
Ah c'est pas mal ça.
C'est-à-dire que, bon, mis à part l'introduction et le final, après on fait ça dans n'importe quel ordre.
C'est selon le film que t'as regardé hier soir, c'est l'univers qui t'inspire plus qu'un autre, tu vois, hop.
Exactement.
Si tu reviens de Pirates des Caraïbes. Bon bah super, d'autres questions ou pas, messieurs?
Moi j'en ai une par contre, tiens.
Oui.
Est-ce qu'il y en a qui l'avaient lu ou l'avaient joué?
Non.
Moi, j'ai survolé.
J'ai survolé, ouais.
D'accord.
Mais la jouer, c'est quand même assez long. Hein.
La jouer, c'est vrai. Et c'est tellement long que.
Ok. Bon bah super. Donc, tour de table. Je vais commencer par moi. J'aime mieux servir par soi-même. Moi, je vais mettre un bon 4 bien tassé, ouais. Minimum, ouais. Parce que... Parce que voilà, c'est très original et moi j'aime bien. Enfin, c'est très original. C'est original, mais surtout, moi j'aime bien le côté. Alors, on peut pas s'en servir trop souvent non plus. Et j'aime bien le côté des contes. Le côté.
Ouais, le côté 24. Le côté 24 heures chrono, quoi.
Voilà, exactement. Et puis, il y a un double décompte, quoi. Il y a le mois de décembre pour arriver à l'an 2000. Et puis, à chaque fois qu'on arrive dans une époque, il nous faut un certain temps. Et c'est exactement ce que tu disais, s'agissant. C'est-à-dire que. Il y a des fois où on aura. Merde, on dira putain, on n'aura pas assez de temps pour s'en sortir. Et il y a des fois où on dira putain, on a été trop rapide. Là, on est dans la merde. Il faut qu'on reste et il faut qu'on fasse profil bas en attendant, quoi. Donc, vraiment, pour ce côté-là, pour le côté écriture et originalité, moi, je mets un bon 4. Ouais. De ton côté, Dweller?
Alors, moi, je mettrais sur une échelle de 5, disons 3-4, si je le détache complètement de l'appel de Cthulhu, pour effectivement le côté un peu baroque, un peu barré. Après, si je m'inscris dans du Cthulhu, alors du coup, là, je retombe à 1 ou 2, parce que pour moi, c'est trop éloigné d'une ambiance Cthulhu telle que je la conçois, même en Delta Green, quoi. Il y a un petit côté un peu trop baroque, un peu trop éloigné, en fait, de l'or, quoi.
Si je peux me permettre, c'est pas baroque, c'est vraiment cyberpunk.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. T'as donné une bonne définition. Quand je l'ai survolé, c'est bien l'esprit que j'en ai eu, avec les dessins de Barthélémy, le mec avec l'Uzi et tout. Pour moi, je suis pas du tout dans du Lovecraft tel que j'ai envie de le jouer. Mais par contre, si je le détache complètement, alors d'accord. Pourquoi pas.
Et tu dis ça, Dweller, pour le côté petites apartés dans l'histoire ou pour le côté le boucher actuel avec les gros flingues?
Ouais, plutôt pour le côté cube cosmique, boucher, Uzi, relance roquette. Pour moi, à la limite, si tu veux, je le verrais peut-être dans du mage, par exemple. Je connais plus ou peu ce jeu, mais je le verrais là, alors, éventuellement.
D'accord. Dark Keeper?
Alors moi, autant le côté voyage temporel m'avait... Pourquoi pas? Je vois un peu plus le mythe. Par contre, pour le côté boucher, j'ai peur que maintenant, ça tombe un petit peu... même avec le côté pression de temps, j'ai peur qu'on tombe un petit peu à un... Ou un peu comme... Comment il s'appelle Nemesis, le méchant de Resident Evil, qui est intuable, et qu'au bout d'un moment, les joueurs finissent par un peu se lasser. Mais après, comme tu l'as dit, si tu t'en tiens à 3-4 fois et qu'au bout de la quatrième fois il lui règle son compte, je pense que ça peut tout à fait se jouer. Sinon, pas, là, je mets la même réserve que Dweller. Je vois quand même mal le côté Lovecraft. Même si tu mets ça sur des Delta Green, cette espèce de boucher là, je sais pas, c'est peut-être qu'on en a peut-être trop vu. Mais si vous voulez faire un parallèle, par exemple, dans comment dire le scénario du livre de base de Gumshoe, il y a un autre boucher qui est mis en scène, qui est le boucher de Cleveland, qui lui est un boucher historique et qui me parle beaucoup plus, si vous voulez dire.
D'accord, plus exploité. Mais...
Ou alors, je pense qu'il manque à ce boucher. Ouais, si on l'a peut-être dit, ou c'est peut-être moi qui n'ai pas suivi, mais il manque à se boucher, je pense, des vraies raisons d'agir. C'était apparemment la deuxième saison, mais je trouve ça dommage de n'aborder cela que dans la deuxième saison, alors que moi, durant les parcours temporels, j'aurais bien semé un petit peu partout des éléments de compréhension. Je pense que ça pourrait enrichir le truc. Donc je mettrais, indépendamment du mythe, pareil, je mettrais un bon 4. Et sinon, si vous voulez, en tant que campagne de Cthulhu, je mettrais plutôt 2,5-3.
D'accord. Bis best part, voilà.
Moi, je mettrais un bon 3,5 à jouer.
Voilà.
D'accord.
Côté voyage dans le temps, surprendre les joueurs, etc. Ça me plaît beaucoup en général. Ouais, moi, j'ai mis attelé, quoi.
C'est ta prochaine lecture.
Voilà.
Bon, ben, bien défendu. On ne fait pas l'unanimité, on s'en fout sur Toc. Et donc, merci Sergisson pour cette deuxième intervention. On va attaquer la dernière, parce que vous faisiez les marioles derrière Beast Bastard et puis Dweller. Ça va être à vous de jouer. On va faire ce cool test Mar des Masques.
Dac.
Enfin, Fire Beast Bastard, on t'entend pas terrible, terrible, c'est un peu... Comme là, tu
attends, parlais,
tu
vois. Il a l'air bon, quoi.
Qui envoie.
Ça va, là, ou quoi?
Un peu mieux.
Un peu mieux.
Ouais, attends, je vais voir.
Mais c'est assez bas, le niveau sonore, c'est pas... On t'entend parler, mais c'est tu parles très très bas, le niveau sonore est assez bas.
Ah, d'accord, c'est que je veux pas réveiller tout le monde chez moi non plus, quoi.
Pareil.
Oui, oui, non, tout à fait. Moi aussi,
voilà.
C'est que je parle discrètement aussi. Donc, on va attaquer la dernière partie.
Ok.
Le plat de résistance, la souris sur le gâteau, la vedette, le singe, la claque après la soirée. Et je vous lance la pression, c'est normal. Une campagne qui a été rééditée, c'est pour ça que j'en parle, qui a été travaillée par.
Trois fois.
Ouais, qui a été travaillée dans la dernière édition de Sans Détour par Carter, qui est sur TOC. Donc, eh bien, messieurs, je vais vous laisser. Alors, je ne sais pas comment vous voulez procéder. À la limite, on va dire que, à la limite, Dweller, tu lances. Et puis, Beast Bastard, comme tu fais un peu moins bien, si tu veux rajouter des choses, tu le coupes. D'accord.
Peut-être que Beast pourra enrichir sur les nouvelles parties que je connais un peu moins.
C'est-à-dire
Peut-être les.
Tu as joué les versions, toi?
Ouais, voilà.
Ah ouais, moi j'ai joué la version, on va dire, intermédiaire avec.
Voilà, donc tu pourras ajouter alors.
Ouais, pas de problème.
Ça marche.
Bah, allez-y, messieurs, c'est parti.
Combien de temps? Rappelle-moi.
Entre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes.
Ok, c'est parti. Bon, alors, les fungi, donc, bah, tout le monde a entendu parler. On va dire que c'est un vieux, vieux classique du jeu. On va dire que ça s'inscrit dans la tradition des grandes campagnes où on va combattre un culte aux quatre coins du monde pour empêcher l'apocalypse. Elle a le mérite d'être la première, sûrement, ou plus exactement la deuxième après les ombres de Yog-Sothoth, mais beaucoup plus réussie. Le point commun, c'est qu'elle a un titre qui n'a rien à voir avec son intrigue, ou quasiment. Comme à l'époque, c'était la mode. Donc, on va dire l'argument, si on le développe en rapide. En fait, les personnages vont être amenés à faire la rencontre d'un médium lors d'une enquête apparemment simple. Un jeune homme, un médium qui a disparu. Ils vont enquêter sur sa disparition, comprendre que l'individu faisait des rêves un peu étranges. Et puis, ils vont le sauver, on va dire, c'est le préambule de la campagne. En fait, ce médium, Paul Lemont, a fait l'objet d'une possession par les esprits de la grande race, de Yit, comme le protagoniste de la nouvelle de Lovecraft dans l'abîme du temps. Il s'en souvient plus, mais ça commence à remonter, il fait des cauchemars, il a des visions d'apocalypse, en fait, à la fois à cause de ce voyage dans le temps et parce qu'il passe en raison d'une mémoire génétique, on va dire. Et donc, il a des visions d'apocalypse. Donc, il va être un peu le fil conducteur, peut-être un peu linéaire. C'est un peu le côté linéaire de la campagne, c'est-à-dire qu'on va être amené, un indice va vous emmener vers un endroit, et ainsi de suite.
C'est Sprite, Sprite, reviens.
C'est le côté classique de la campagne. Donc, en fait, Paul a des visions, et ces visions vont entraîner les joueurs. Il a des visions d'une grande bête qui ravage le monde. Voilà, donc ça, c'est le premier chapitre. Donc, le premier chapitre est assez sympathique. Il se présente comme une enquête un peu policière, pour retrouver ce médium qui a disparu. Et puis, en plus de ça, il n'est pas mort. En vérité, il est juste dans une maison de repos parce que son impresario veut le ménager un petit peu vu qu'il est exténué par ses cauchemars. Ce que j'aime dans ce scénario, c'est qu'on y croise un protagoniste qui me semble assez intéressant, qui est un homme, en fait, qui est un agent de la grande race et qui va essayer de faire taire Paul, en fait, parce qu'il craint que Paul, petit à petit, se rappelle et soit capable de révéler les machinations de la grande race. Donc, c'est un personnage assez sympathique qui revient, qui essaie un petit peu, qui sait se déguiser. Donc, il a un petit côté némésis, pour reprendre un peu ce qui a été dit tout à l'heure, qui vient là où on l'attend jamais, jusqu'à même dans la dernière scène, quand on retrouve Paul contre toute attente, en bonne santé. Il peut arriver déguisé en infirmière pour... bref, donc, c'est un côté assez sympa. Voilà. Le deuxième chapitre, en fait, est un peu plus tard, on peut même l'espacer. Paul a des nouvelles visions et il va donc en faire part aux personnages qui l'ont sauvé. Il rêve d'enfants morts à Boston. Donc, effectivement, peu de temps après, des enfants meurent à Boston ou disparaissent. Ça nous emmène sur les traces d'un meurtrier qui amène vers une vieille bâtisse dans les vieux quartiers de Boston. Et c'est là, en fait, dans la bâtisse, qu'on va découvrir des documents sur les gens qui l'ont habité. le tueur d'enfants est assez périphérique sur l'ensemble de la campagne. C'est un enfant qui est né d'un accouplement entre la femme d'un scientifique qui vivait dans la maison et une entité d'outre-espace. Mais par contre, ce sont les documents qu'on va...
Wow.
Les documents qu'on va trouver dans la maison qui vont commencer à mettre les joueurs sur la piste du culte, puisqu'on y trouve des correspondances avec un mystérieux baron Hauptmann qui semble-t-il vient de Roumanie. On comprend qu'ils sont tous en train d'intriguer autour d'un mystérieux jeune maître Édouard, une espèce d'individu, un enfant qui semble-t-il est très a une importance capitale pour des projets que l'on comprend être en rapport avec les visions de Paul. Donc le scénario est assez sympathique là aussi, il a un petit côté malsain avec cette vieille dame qui vit toute seule dans cette maison et qui est tellement perdu la boule qu'elle ne réalise pas que l'enfant en question est une monstruosité protoplasmique qui vit au fond du puits, à qui elle donne des vieux poulets pourris, et comme elle a un peu Alzheimer, et elle a oublié de lui donner son poulet de la semaine, et le pauvre petit, il n'est pas méchant.
Il va se nourrir, quoi.
Il a faim et il va manger des enfants, parce que les enfants sont pas très puissants, pas très rapides, il peut les bouffer. Et ce qui est assez sympa, c'est que justement le monstre en soi est relativement innocent. Il a son seul défaut, son seul péché, c'est d'avoir été engendré par une monstruosité. Et malheureusement, c'est plutôt un espèce d'enfant sauvage qu'on a enfermé dans une boîte pendant toute sa vie. Donc, si on arrive à faire ressortir ça, il peut y avoir une forme d'empathie avec quelque chose d'abominable et qui tue des enfants, mais qui en définitive n'est responsable de rien. C'est le petit côté sympa.
Ouais. Et les lunettes aussi.
Et donc après, il y a des petits à côté. Donc les lunettes, effectivement, du docteur Cornwallis permettent d'entrevoir les dimensions. Et on comprend que c'est comme ça que sa femme, en fait, par erreur, ayant chaussé les lunettes, l'artefact de son mari, par erreur, elle a vu une chose qu'il a violée et qu'il a inséminée. Et c'est ainsi qu'est né Jérémy, le monstre du puits qui tue les enfants. Mais en fait, la fonction du scénario est vraiment, en fouillant la maison, de mettre les joueurs sur la piste, en fait, de ce culte, la confrérie de la bête, en fait, qui n'est peut-être pas encore nommée à ce stade de l'histoire. Le troisième chapitre va nous envoyer en Roumanie. Alors, c'est le côté un peu années 80, qui est moins grave que dans Les Ombres de Yoxotot, mais bon, moi, j'ai un petit peu un problème avec... Je suis un détective privé bostonien. J'ai compris ce qui tue des enfants. Tout à coup, je trouve une lettre qui dit qu'il y a un baron en Roumanie et qui a l'air méchant et qui complote. Et donc, je vais aller en Roumanie. Voilà, je pense qu'on est un peu dans ce côté.
Les barons en Roumanie sont très méchants.
Il y a du boulot à faire sur l'implication des joueurs.
Voilà, il faut travailler la question pour que les joueurs aient une vraie raison de dire je quitte ma Boston natale et je vais en Roumanie. Troisième chapitre en Roumanie. Alors là, vous pouvez vous appuyer à fond les manettes sur les vieux films de la Hammer. Et on est à fond dans l'ambiance vieux film d'horreur en noir et blanc. Donc vous pouvez y aller, Dracula de Coppola. C'est-à-dire que les joueurs vont aller en Roumanie du côté d'un village qui s'appelle Klausenburg. Et un petit village encore plus reculé de Drosvona. Et là, on est dans la vieille église en ruine, les villageois qui vous regardent de travers, personne ne vous parle, les Hongrois avec grosses moustaches et grands couteaux qui ont l'air bien méchants et qui servent le baron dont on ne sait pas grand-chose, on l'a pas vu depuis des années, mais il vit dans le vieux château décrépit en haut de la colline. Donc là, je pense qu'il y a une vraie belle ambiance qui peut être mise en place. Les joueurs
de personne parle anglais, quoi.
Voilà, c'est ça, on y va à fond, ils parlent ils parlent tous le roumain, bon, avec deux, trois personnages qui sont là pour aider un petit peu le prêtre du coin. Donc là, on va jouer la carte du vampire, c'est-à-dire tout est fait pour faire penser que le baron Hauptmann est un vampire, faut y aller, ce n'est pas un vampire. En fait, le baron Hauptmann est un espèce de Gilles de Rais, en fait, un ancien chevalier teutonique qui, dans une tradition lovecraftienne, a survie en réinvestissant les corps de ses descendants façon Charles Dexter Ward. Donc il vit ainsi, prenant la place de ses soi-disant héritiers pour récupérer son château. Donc les joueurs vont enquêter, vont certainement vouloir aller soit fureter dans le château discrètement, soit se faire inviter par le baron. Alors là, vous pouvez sortir le carrosse à la Dracula. S'ils sont invités, je pense que ça va très mal tourner, parce que ça va être séance de torture dans le donjon, mutilation en tout genre, parce que le baron Hauptmann se délecte de la souffrance des gens, c'est pour ça que j'évoquais Gilles de Rais, je pense que ça peut être un parallèle. La fonction là aussi, bah, c'est que dans ce château, là, on va en découvrir vraiment davantage, on va comprendre un peu plus des documents très anciens qui permettent de retracer l'histoire de cette confrérie, comprendre qu'ils attendaient un espèce de messie, un enfant particulier qu'ils ont pris sous leur tutelle, qu'ils ont éduqué. Alors ensuite, on y découvre aussi des parchemins, dont notamment, c'est un des multiples endroits où on peut découvrir le sortilège qui peut permettre à la fin de lutter contre le rituel, à savoir de renvoyer la bête. Le côté intéressant de cette campagne à ce niveau-là, c'est que ce parchemin peut être trouvé dans de nombreux endroits. Alors dans le château en question, si jamais tout le monde se fait capturer, il y a un PNJ qui sert un petit peu de va-tout aux joueurs, un espion bolchevique qui enquête sur la disparition d'un bataillon à l'époque de la Révolution russe, me semble-t-il, ou peut-être de l'exode des Russes blancs.
Donc, c'est de destin, d'ailleurs.
Voilà, il peut sauver les joueurs si jamais ils sont dans le donjon. Une chose intéressante, je pense, c'est que dans un des décrochages de la campagne qui peut s'amorcer là, c'est qu'on comprend que Hauptmann et les siens ont été découvrir des documents très mystérieux et inhumain dans une bibliothèque qui n'est pas de notre monde, à savoir la grande bibliothèque de Kelaeno, comme l'antichambre de ce forum TeamSpeak. Donc moi j'aime beaucoup parce que il y a un petit côté comme ça, on va chevaucher un biaki en buvant de l'hydromel de l'espace. Ça fait partie des trucs qu'on a tous trouvé sympa en lisant les livres des règles, mais qu'on n'a jamais l'occasion de sortir. Si on a joué à Horror Arkham, la bibliothèque de Kelaeno, on la connaît. C'est un des autres mondes. Enfin, il y a quelque chose de très sympa là-dedans.
Ah, original, on avait commencé le poolcast en étant des chats dans Kadat. Là, on finit en buvant de l'hydromel à Kadat.
Voilà. C'est bien, ça. Donc, on peut, sur la base de ces documents, je pense qu'il faut un petit peu semer un peu plus d'indices pour que les joueurs comprennent que c'est possible et faire ce voyage complètement inconcevable à l'autre bout de la galaxie et plus loin même encore. Et puis, il y a un petit côté comme ça, je rentre dans une bibliothèque gigantesque, des architectures dignes des contrées du rêve, avec le dormeur, une monstruosité qui dort dans un lac. C'est un petit côté Moria aussi avec le gardien devant. Je pense que ça peut être quelque chose de très sympa. Donc là aussi, dans cette grande bibliothèque non humaine, on peut trouver notamment à la fois le sortilège de renvoyer la bête, mais aussi un autre antidote, on va dire, pour finir la campagne, une sorte de barrière magique qu'on pourra dresser pour emprisonner la bête au moment où elle reviendra. Là-dessus, donc, dans le château, on trouve également l'idée que une tombe, Hauptmann et les autres se sont intéressés à une tombe. On comprend en fait la genèse de la confrérie. Elle remonte en fait à un prêtre égyptien de la 15e ou 16e dynastie, Nofruka, à ne pas confondre avec Nefrenka des masques de Nyarlathotep, un prêtre égyptien qui en fait avait prophétisé alors, cette chose-là.
Justement, je crois là-dessus, il y a sur Rollis TV.
Ils sont en train de tout refaire. Hein.
Le dernier épisode sur Rollis TV, ils en parlent et ils disent que en fait, c'est un mauvais copier-coller, mais c'est le même.
Alors non, si on lit les masses de Nyarlathotep, c'est pas le même en fait, parce que ça correspond pas du tout à la même époque.
Mais il voulait utiliser le même apparemment d'origine, parce que c'était un copier-coller qui a mal été fait apparemment.
Je sais pas.
Il partait sur la même idée, mais c'est pas grave.
Bah moi, disons que je pense qu'effectivement, en lisant ça, on peut essayer de créer une jonction, à mon avis. Nefrenka, c'est quand même quelque chose comme 1000 ans plus tard, en fait. Donc lui, Nefrenka, parce que le problème là où ça coïncide pas, c'est qu'on nous dit que dans les masses de Nyarlathotep, Nefrenka est tué par le pharaon Sneferu. Et emprisonné sous la pyramide penchée de Dachour, alors que Nofruka des Fungi de Yugoth s'exile avec sa cohorte et ils vont finir dégénérés dans les ruines de Garnet chez les Ptoniens. Donc c'est.
D'accord. Voilà.
Alors après, on peut imaginer que ce soit une réincarnation, pourquoi pas. En tout cas, la jonction peut être que la bête que l'on doit arrêter à la fin est un avatar de Nyarlathotep. Donc on peut broder et créer des liens. Je pense que c'est quand même intéressant.
Ouais, c'est ça. Pas très éloigné.
Voilà. Il y a quand même pas mal de convergences. Donc en fait, on comprend dans les documents qu'on trouve dans le château que apparemment il s'intéresse à l'Égypte. Donc bien évidemment, en bon investigateur des années 80 que nous sommes,
on y va.
Et on va s'intéresser à l'expédition Galloway, qui est financée par Biscatoni, bien évidemment. Et on va se retrouver donc à essayer d'approcher cette expédition, de se faire enlever par des brigands du désert qui, plutôt que vous égorger, parce que vous êtes des Occidentaux et que quand même, on touche pas aux Occidentaux, ils vous jettent dans un gouffre dans le désert qui vous mène à la tombe de Nefrenka et vous permet là aussi de trouver des renseignements, le sortilège de renvoyer la bête. On va se sortir de la tombe, errer dans le désert pour finalement retrouver l'expédition et comprendre qu'il y a un traître dans l'expédition à la solde du baron Hauptmann, alors même qu'on est en train que l'expédition va découvrir un site très important, la sépulture de... Enfin, c'est pas tout à fait la tombe, en fait, excusez-moi, dans laquelle on vous jette, mais un lieu important où Nefrenka a eu ses révélations. Et puis, l'expédition Gallo va trouver la tombe, va découvrir d'ailleurs que quelqu'un semble être
passé. C'est les joueurs qui vont permettre de trouver la tombe.
Oui, grâce à leur vision qu'ils ont eue, je crois, d'ailleurs.
Non, c'est là, ils trouvent une carte chez le baron Hauptmann.
Voilà, ok, c'est ça, exact. Et donc, ils comprennent que quelqu'un est déjà passé avant, Hauptmann. On a une séquence action avec attaque de Biaki dans le camp. Il y a une chose un peu idiote là aussi, c'est que quand on fouille la tombe du vilain traître Abdal Katif, on trouve une lettre du baron Hauptmann. Donc bien sûr, il a une lettre, mais il la garde, il ne la détruit pas, il ne la brûle pas, il ne la mange pas, il la garde pour qu'on la trouve. Bon, bref, on peut peut-être s'en passer. Et voilà. Et puis on conclut donc en ayant découvert un certain nombre de renseignements, une fois encore d'ailleurs le sortilège de renvoi de la bête, on comprend un peu plus. Je pense que dans le chapitre égyptien, la campagne, on va dire, la note d'intention, c'est que ça pourrait se passer en 1928, sachant que la chute potentielle, les machinations de la confrérie peuvent expliquer aussi le crash de 29. Donc, si c'est en 28, on va dire que c'est 2 ans après les masques Nyarlathotep, ou 3. Donc ça peut être sympa, peut-être au Caire, de faire re-rencontrer le professeur Kafour. Une piste intéressante était celle développée par le magazine World of Cthulhu, qui disait qu'il y aurait une confrérie qui s'appelait l'épée de Sneferu. Je ne sais pas si certains de vous ont lu ça.
Non.
En fait, il y a tout un article sur deux numéros de cette revue qui est très intéressante, en fait, et qui, du coup, vous parle d'une société secrète qui s'appelle l'épée de Sneferu, fondée à l'époque du pharaon Sneferu lorsqu'il a lutté contre Nefrenka dans les masques, et donc qui continue. Et Kafour, dans ce contexte-là, n'est pas juste un occultiste au musée, mais carrément fait partie de cette secte, en fait. Mais c'est pas une secte qui va forcément tendre les bras aux Occidentaux, elle est quand même très 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 prudente. Moi, dans les masques, je l'ai utilisé comme tel, mais ils n'ont jamais vraiment su. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose, mais voilà. Donc c'est assez intéressant, ça peut même être utilisé à notre époque. Voilà. Donc on peut utiliser ça, je pense. Je pense que ça peut être très sympa pour des joueurs qui ont joué les masques à ce moment-là de retrouver Kafour. Pourquoi pas imaginer que la confrérie de la bête aurait des liens avec la confrérie du pharaon noir, ressortir ce bon vieux marche actif. Enfin, je pense qu'il y a des possibilités pour pouvoir mettre du lourd, quoi. Alors après, vous intercalez quelques scénarios, et puis Paul, à nouveau, des cauchemars, des visions, il voit des tremblements de terre en Amérique du Sud, et donc on va en Amérique du Sud. Alors, en Amérique du Sud, on va aller s'intéresser à des tremblements de terre au Pérou, qui vont nous emmener vers des mines exploitées par une filiale de la NWI, la New World Incorporated, une société multinationale dirigée par un philanthrope très en vue, qui s'appelle Edward Chandler. Et quand on commence à s'intéresser à la multinationale, alors on va peut-être faire la connexion avec le jeune maître Edouard, l'enfant tant attendu par la confrérie, qui est donc en fait le chef de cette multinationale qui en fait a pour but de déstabiliser le monde et de provoquer l'avènement des grands anciens. Alors c'est la première fois avec cette campagne que la NWI fait son apparition. Vous la retrouvez ensuite dans une campagne qui s'appelle At Your Door, qui est une campagne contemporaine. Et on la retrouve également mentionnée dans Unseen Masters, les maîtres indicibles, je crois, en français, chez Fondéco. Où il y a un scénario qui en parle beaucoup, en fait, qui parle de cette société. Bon, donc, elle rentre dans le canon, on va dire, de, non pas de Lovecraftien, mais en tout cas du jeu L'Appel de Cthulhu, où elle est mentionnée un certain nombre de fois. Et donc, voilà. Donc, en fait, la société en question exploite des mines, il y a des tremblements de terre, c'est bizarre, et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les voilà, les fungi de Yugot de la campagne. Ils sont là-bas, et en fait, la NWI, pratiquement personne n'est au courant, sauf le haut responsable sur place, traite avec les Migos, en fait, exploitent des mines pour extraire un minerai. Ce minerai va servir à une partie du grand plan de la confrérie, c'est-à-dire faire invoquer les dolls. Encore le genre de monstre qu'on sort pas tous les jours de son escarcelle. Ils veulent invoquer des dolls en masse pour ravager la terre. Et pour cela, utiliser un encens un peu spécial. Et le produit de base, c'est un minerai qu'on trouve là-bas. Donc les joueurs vont arriver là-bas, enquêter. Alors il y a un truc un peu étrange. On arrive dans ce vieux village au fond du Pérou qui s'appelle Huancucho. Et là, on retrouve le vieil oncle Victor qui vous avait fait sauter sur ses genoux. Et oui. Bon, je pense que... C'est le PNJ sympa qui est là pour vous aider, vous raconter 3-4 rumeurs. Je crois qu'on peut. Ou alors Victor, on l'a introduit dans 25 scénars avant, ou alors on laisse tomber, je pense. Mais ceci étant, donc, on se retrouve au milieu d'une histoire avec cette mine. À la fois, la NWI finance également des guérilleros contre le gouvernement dans son grand but de déstabilisation de l'ordre mondial. Donc, il y a des histoires de trafic d'armes. On a des Indiens, évidemment, sages et qui ont été foutus dehors par l'exploitation minière et qui, eux, sont détenteurs de certaines vérités, notamment d'un vieux lieu de culte de Yig. Et d'une vieille légende qui annonce une espèce d'étrange personnage qui pourrait venir. Et donc, dans le scénario, on vous propose un personnage qui s'appelle l'ombre qui marche, une gansa, un indien pâle, en fait, qui vient un peu comme une présence énigmatique et qui, en fait, est un ennemi des fungi. Alors, c'est un peu bizarre parce que Keith Herder nous invente ce personnage et il va nous le recaser un peu plus tard dans, pour ceux qui connaissent, évidemment, vous aurez fait le parallèle avec le rejeton d'Azathoth, le père fantôme. Là aussi, on a un indien albinos avec son grand bâton qui est un ennemi des fungi et compagnie. Et donc là, il y a un truc un peu étrange parce qu'on nous le présente comme un indien alors que dans le rejeton d'Azathoth, c'est un espèce de serviteur d'Aibon. Il est peut-être indien parce qu'il a traîné sa bosse en Amérique, mais il est plutôt hyperboréen, si je me souviens bien, dans le rejeton. Donc là, il y a aussi une petite dissonance à régler, mais ça peut être un moyen d'introduire ce personnage, peut-être en le réécrivant, on va dire, à la lumière du rejeton d'Azathoth, pour que si un jour on joue le rejeton, là aussi on ait un effet clin d'œil. Alors le scénario n'a pas de fin vraiment défini. On peut aller faire tout péter dans la mine. On peut découvrir ce qui est assez intéressant là aussi. Une des petites originalités de la campagne, c'est que si on explore les mines, il y a un portail qui vous mène vers une base lunaire des fungi. Donc je trouve assez sympathique l'idée des investigateurs qui se retrouvent en gravité zéro tout à coup à faire des bonds à la Tintin. On a marché sur la lune chez des fungi. Le côté un peu complètement extraterrestre, on peut faire très peur aux joueurs et leur proposer un environnement un peu inédit, quoi.
Coupe un peu au plus court parce que c'est. Je suis désolé, mais c'est intéressant, mais ça peut durer longtemps.
Ok.
Donc, on n'arrive pas à la fin, là, quand même.
On arrive à la fin. Donc, ils vont découvrir ce minerai, ils comprennent que le minerai est acheminé à San Francisco, à un certain Lang Fu. On va à San Francisco dans l'épisode d'après, on enquête, on découvre donc les machinations de Lang Fu, un grand sorcier qui fait partie de la confrérie, avec ses profonds. Donc là, on ressort un petit peu les hybrides, les profonds, voilà. On comprend aussi que le l'encens est acheminé à des temples. C'est une espèce de religion un peu New Age, étrangement avant l'heure, je dirais, qui s'appelle Ranpaku. Et c'est ça le grand plan aussi, c'est qu'ils ont créé une espèce de religion et à l'insu des leaders très peace and love, ils vont leur faire chanter un grand chant d'amour fraternel qui va en fait invoquer les dolls, quoi, le jour de la bête. Et puis, donc, on va enquêter, on va comprendre aussi qu'on va se faire attaquer à San Francisco, on va remonter l'enquête, on va arriver à des laboratoires de la NWI, très high-tech, avec des robots avant l'heure, des choses comme ça, un petit peu de la technologie assez avancée, en fait. Et on comprend que, là aussi, il y a un plan, ils ont implanté des espèces de modules de contrôle dans des individus qu'ils utilisent un peu partout pour noyauter des organisations anarchistes, etc., pour, encore une fois, foutre le bordel le jour J. Et puis au final, ben on comprend, on a la date, on sait que ça va se passer au Caire, on arrive au Caire comme au bon vieux temps des masques de Nyarlathotep, et ils vont invoquer la bête. La bête, c'est rien d'autre que Abuol, le père du vide, l'avatar de Nyarlathotep, qui est le sphinx sans visage. Donc le sphinx va carrément se lever et marcher pour tout détruire le Caire et faire une croisade de destruction. Sauf si on peut le renvoyer avec le sort, sauf si on dresse la barrière. Alors, c'est très difficile de réussir cette campagne au final, parce qu'il faut arrêter la bête, mais il faut aussi empêcher les dolls. Donc, ça suppose que les joueurs aient, par exemple, une fois les renseignements en main, contactent des gouvernements qui vont pouvoir un peu partout empêcher les temples de Ronpaku d'invoquer les dolls. Donc, je pense que c'est pas si facile de réussir.
C'est l'équipe de la terreur en plus.
Voilà, en plus, les organisations anarchistes. Hélas, je pense que c'est pas
ça
les joueurs
dans
qui peuvent faire
coins,
le boulot. Voilà, c'est le gouvernement.
Ouais, c'est violent.
Petite accroche Delta Green, peut-être, à ce moment-là. C'est-à-dire, les ancêtres de Delta Green peuvent peut-être être là dans le dans filigrane. Voilà, donc au final, une campagne assez linéaire, quand même. On va d'un indice à un autre. Elle est classique. Elle propose quelques situations assez sympas. Elle a le classicisme assez sympathique. Des PNJ comme Outman qui sont assez mémorables. Voilà un peu ce que j'en dirais pour en faire un résumé que j'ai un peu long, désolé.
Bill Bastard, des ajouts ?
Alors, au niveau des scénarios qui ont été rajoutés dans la nouvelle version qui s'appelait Le jour de la bête, qui est là, qui est un titre qui est plus en accord avec la dans la campagne.
Claire.
Ils ont rajouté trois scénarios. Donc, un scénario d'intro qui permet de faire juste connaissance avec Paul Le Monde. C'est un scénario de maison hantée que moi j'ai trouvé absolument génial. Les joueurs m'en reparlent régulièrement de ce scénario-là. Enfin, voilà, c'est une séance de spiritisme avec Paul Le Monde qui va faire revenir les esprits dans une maison hantée, justement. C'était très oppressant. Il y a des joueurs qui vraiment disaient, moi j'aurais jamais peur, se sont mis à vraiment avoir les foies comme c'était pas permis. Moi j'ai trouvé ça super, ce scénario là. Et donc c'est le seul but, c'est de faire connaissance avec Paul Le Monde. C'est-à-dire qu'après, quand ils doivent le rechercher dans le scénario de New York, ils ont une empathie directe avec ce personnage, et après ses rêves, ils les prennent un peu plus au sérieux. Il y a quelque chose qui paraît plus naturel par la suite. Le deuxième scénario qui a été rajouté, c'est alors ça se passe à Rapid City, dans les montagnes noires, il me semble. Je m'en souviens pas très bien.
C'est ça, Black Hills.
Black Hills, c'est ça, ouais. Donc il y a moi c'est pas le scénario que j'ai préféré, parce que je trouve que là on fait intervenir trop vite le côté mythe, alors qu'il était vraiment en filigrane jusqu'à Boston. Là tout d'un coup on se le prend en pleine face avec les chans, justement, ont entre guillemets envoûté des mineurs dans une succursale de la NWI dans les Black Hills.
Ouais, c'est pour exposer la NWI quoi, en amont.
Mais je trouvais que ça faisait un peu trop tôt, moi. Et je trouvais qu'il y avait vraiment le côté mythe tout d'un coup qui était vraiment violent quoi, pour le. Enfin, on y arrivait vraiment les pieds dans le plat quoi, avec le grand piton, le grand vaisseau spatial dans la montagne, etc. Et bon, le côté indien, chamanisme indien, ça par contre c'était vraiment très sympa.
Le problème, c'est qu'il y a un gros risque de redite avec le chapitre
péruvien. Ah, le chapitre du Pérou, c'est pour ça que moi je l'ai pas trop appuyé dessus, quoi. Voilà, j'en ai pas fait grand chose de ce scénario-là.
Et le troisième ?
Le troisième, moi je l'ai adoré, ce scénario-là. C'est un scénario qui se passe à Londres. Et là, il y a un ancrage historique super. Donc là, on voit toute la société politique de Londres avec les membres du Tory de Londres. Ça, on y arrive par un rêve de Paul Le Monde. Alors, le petit défaut, c'est que en fait, on se retrouve à Londres alors qu'avant, on restait toujours aux États-Unis. On retourne après aux États-Unis pour Boston, justement. Donc après, c'est à voir comment on l'inclut, quoi. Il y a peut-être moyen de l'inclure après le scénario de Boston, peut-être.
Et l'argument, c'est
pour éviter les
pas... Et l'argument, c'est un rêve de Paul Le Monde qui rêve que Londres va brûler, quoi. Londres va brûler, etc. Donc c'est un peu le même argument, un peu tiré par les cheveux. Et donc les joueurs arrivent à Londres, justement, enquêtant sur ce qui s'est passé à Londres, et ils commencent à rechercher ce qui a pu se passer à Londres dans ces choses-là. Très bien comment ça se passe, voilà, comment, quel est l'ancrage exact. Et sinon, je me souviens, c'est que les joueurs doivent vraiment aller voir les partis anarchistes de Tooting. Ils vont dans différents quartiers de Londres, donc ils visitent la haute société politique, et surtout leur ennemi principal, c'est un homme serpent qui a infiltré un groupe d'extrémistes de droite anglais, et qui sont les adversaires des anarchistes, entre autres. Et donc il y a eu vraiment quelques scènes mémorables, quoi, en particulier avec les joueurs dans le congrès des fascistes anglais, à essayer de ne pas parler avec leur accent américain. Enfin voilà, c'était très très fun. Et surtout l'ennemi en question, Lewis, c'est un homme serpent qui en fait c'est un peu lui qui est à la source des expériences qui vont donner les fils de la terreur par la suite.
Vivait-il chez un peintre quelques années auparavant?
Ah ouais, c'est vrai.
Il a son masque.
Et donc, cet homme serpent-là, donc, il échange forme, forcément. Donc ça, c'est aussi sympa, on peut jouer là-dessus pour le confronter aux joueurs. Il semble d'ailleurs qu'il est une jolie poupée, justement, qui flirte avec les anarchistes aussi, parce qu'il essaie de monter les anarchistes vers un côté beaucoup plus violent, histoire de créer les fils de la terreur par la suite, quoi. Et ce personnage-là, moi, il avait survécu à la fin du scénario, et il était revenu pour un scénar absolument mémorable par la suite que j'avais boutiqué au moment de la pause. Et voilà. Donc l'intérêt de ce scénario-là, c'est vraiment de placer les fils de la terreur un petit peu en amont. Et surtout, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était l'ancrage historique du scénario. Quoi.
D'accord.
Tous les groupes, les différents groupes politiques de l'époque. Enfin, c'est en plein pendant les grèves en plus des. Époque là, les grèves ouvrières, etc. Enfin, moi, je trouve ça vraiment très très vivant pour le coup. Enfin, les joueurs avaient trouvé ça très vivant.
Ok.
Voilà, good. On la joue.
Bon, ben, messieurs, je pense qu'on a fait le tour de votre côté.
Peut-être un truc, quand même, très vite, c'est que je pense que cette campagne, qui est plus ou moins estampillée années 20, mais ils le disent au début qu'elle peut être déplacée, à mon avis, elle pourrait gagner à être soit jouée dans les années 70, pour le côté Ron Paku, culte New Age, les hippies, ça pourrait largement aller, avec dans les années 70 le terrorisme à fond les ballons, Brigade Rouge et compagnie, ça correspond assez bien à l'époque, les attentats de Munich, etc.
La bande à Bader et compagnie.
La bande à Bader, donc je pense que si vous le mettez dans les années 70, ça... Je pense que ça prend une vraie signification.
Ouais.
Ou alors, de nos jours, avec tout le bordel ambiant qu'on a, le New Age d'un côté et Al-Qaïda, l'État islamique. Donc, je pense que ça peut, à mon avis, c'est une campagne qui peut très très bien, elle fonctionnerait très bien.
Voire mieux, peut-être voilà. Même.
Tout dépend, parce que si on la met dans les années 70, si vous allez en Roumanie, on essaie de Ceausescu. Je vous conseille à ce moment-là de relire le roman de Dan Simmons, Les Fils de la Nuit. Enfin, il y a un petit côté, on peut jouer sur cette carte-là aussi, à la fois. Donc, je pense que, à mon avis, les années 70 pourraient être une époque assez sympa et peu exploitée, quoi.
D'accord. Oui, je disais, c'est même peut-être mieux de le caser là-dedans, dans cette époque-là, en 70. Si ça paraît.
Moins redoute masque.
Puis le côté New Age dans les années 20, ça paraît un peu bizarre, quand même.
C'est ça.
Dec. Bon, on va pas trop s'attarder sur les questions, parce qu'en plus, vous avez bien défendu la chose. Mais messieurs, du côté des détracteurs, quelques questions remarques ?
Non.
Moi, j'ai l'impression que c'est aussi un petit peu du... Alors, on prend plein de choses, on met dans le mixeur, on appuie un grand coup, et on met un magnifique nom. Bah, j'ai l'impression un petit peu de choses un peu décousues, où
ouais.
On prend le bouquin de base, on secoue un grand coup, on garde ce qui tombe, et puis on met, quoi.
Ouais, j'avoue qu'il y a un côté fourre-tout quand même.
Ouais, c'est clair. Les monstres sont tous là, il y a tous les monstres de base, et on les retrouve à chaque fois un pour chaque scénario quasiment.
Le truc, c'est qu'il donne l'idée finalement de superposer plusieurs trames et plusieurs fils conducteurs. Parce qu'il y a Paul Lemont, il y a le Baron Hoffman, il y a la New World Incorporated. Enfin, je l'ai lu, puis j'ai commencé à la faire jouer, ou je sais plus si j'avais joué, non, je crois pas, mais j'ai commencé à la faire jouer, c'est ça que ça me donnait comme impression, c'est que on perd un peu les joueurs du fait des lignes directrices, ils savent plus vraiment, enfin, je me rappelle que rien que l'introduction de la New World et Incorporated, mes joueurs, ils n'avaient pas trop accroché, quoi. Ils avaient dit d'où elle sort cette société. Enfin, c'est assez délicat. C'est vrai que on a l'impression que ils ont voulu caser pas mal d'idées dans une même campagne, quand même. Je sais pas si vous en pensez.
C'est
complètement
sûr,
d'accord.
Ça fonctionne pas mal, je pense, quand même. Parce que bon, c'est progressif. Le côté monstre à chaque scénar, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au contraire, c'est quand même à partir du troisième scénar qu'on a du monstre vraiment. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est plutôt du classique dans le bon sens du terme. C'est pas le côté les ombres de Yog-Sothoth, c'est quand même assez resserré. On comprend qu'il y a un culte, on comprend que c'est un culte très ancien, on comprend qu'en fait, ils ont noyauté, ou plutôt ils ont créé cette société, placé leur homme de paille au sommet, leur messie. Non, c'est assez... En fait, non, moi, je trouve ça assez cohérent. Ouais, ça se tient.
Mais c'est vrai que d'un autre côté, j'aime bien aussi le côté du... Pour découvrir un mystère A, et bien on va creuser dans le mythe et on va découvrir des choses pas forcément qui n'ont pas forcément de rapport avec l'intrigue de départ, mais dans la nécessité, quoi. D'accord, ouais. Oui, c'est puis enfin il y a quand même du y a une petite question, c'est pas trop meurtrier, il y a comme du lourd.
Voici, dès le en Roumanie là, c'est assez meurtrier tout de suite. Il y a quand même Nyokta qui dort sous le château quand même.
Voilà,
on
ouais.
Réveille, quoi. Donc,
on peut enlever ça.
Ouais.
Ouais, c'est sûr. Bah, si on veut se la jouer meurtrier, là, il y a moyen.
Bah, c'est les années 80, quoi.
C'est clair. C'est clair.
C'est comme les masses, tu rentres dans le tableau, t'es mort.
Voilà. C'est ça, ouais. C'était le côté Goonies. Qu'est-ce que je pensais, d'autre pouf, pouf. Ouais, dans le côté voyage, moi, ça, moi j'aime bien, donc ça, c'est... Vous le qualifieriez plutôt de pulp ou vraiment d'horreur,
ouais,
Lovecraftienne?
Pulp horreur,
ouais. Moi, elle a commencé horreur, la campagne, et en fait, elle a pris son point culminant en Roumanie en horreur, et elle a pris un virage pulp complet, et ça, c'est mes joueurs, hein, qui en avaient marre de subir. Ils sont devenus des vrais Indiana Jones, à tenter tout et n'importe quoi pour plus revivre ce qu'ils avaient vécu en Roumanie, et ils se sont éclatés, quoi.
Douer, tu l'as joué entièrement aussi?
Deux fois,
ah ouais, d'accord. Et la campagne en elle-même se suffit ou elle est bien documentée, tout ça?
Non, elle fait 70 pages.
Non, il n'y a rien du tout. Hein.
D'accord. Campagne des années 80.
Le guide du Caire, le guide de Londres, le guide de Roumanie, bah il n'y a pas. Donc ouais, non, il faut se documenter pas mal, quoi, c'est clair.
Puis bah, le truc... ouais, excuse-moi, vas-y.
Non, vas-y.
Non, bah, le truc, c'est que je pense qu'on est plus ou moins tous grosso merdo des mêmes générations. Quand moi, je l'ai acheté, j'avais 16 ans. Aujourd'hui, j'ai ma quarantaine tassée. Donc, je joue pas de la même façon. C'est ça le problème, en vérité. C'est que ces campagnes, elles ont pas bougé, mais nous, on a bougé.
Et tu penses... Elle fait partie des campagnes qui sont difficilement jouables maintenant?
Non.
Avec des gens comme nous?
Ah non, pas du tout.
Non, mais il faut l'enrichir.
Pas grave.
D'accord. Hein.
Et les scénarios, moi j'en ai rajouté quand même un bon paquet autour pour bien faire comprendre tous les enjeux qu'il y avait autour de la MWI, etc. Quoi. Ouais, j'ai vraiment fait pas mal de trucs en plus.
C'est
quoi.
Ça, je pense.
Ouais,
mais,
ce qui est
ce qui est sympa, c'est qu'elle est quand même, elle est séminale au sens où elle fait partie du canon du jeu, puisque comme je vous dis, la MWI, on la retrouve dans pas mal de campagnes. Vous avez, comment elle s'appelle, Nitocris des Mass Nieratotep, qui est quand même dans les Unseen Masters, elle est dans un scénario où elle se fait appeler Thalassa Chandler comme Edward Chandler de cette campagne, c'est en soi-disant son héritière. Enfin, elle tisse, cette campagne, elle tisse elle lance des graines. Je vous dis, le rejeton de l'Azathoth, il y a quand même, c'est quand même Keith Herbert, il a écrit beaucoup de choses pour le jeu, et donc ce qu'il a, les graines de son mythe qu'il a créé lui, bah, vous le retrouvez ensuite dans plein d'autres, déclinés dans plein d'autres scénarios et campagnes.
Oh. Les autres, vous avez d'autres questions Dark Keeper ou Sergissant?
Non, moi je...
Non, c'était impressionnant.
Ouais, c'était exhaustif.
Bon, fais un petit tour de table.
Désolé.
Non, mais c'est vrai.
Au contraire, de ton côté, Dark Keeper, de 1 à 5.
Moi, je pense que déjà, rien que pour faire parvenir à tenir autant de mythes tout en restant plus ou moins crédible, je pense que c'est déjà un très bon point. Après, j'ai pas joué la campagne. Si, tu prendrais combien de joueurs pour la faire jouer?
Oh là, moi j'avais fait jouer à 4.
4, hein.
Le nombre d'or.
Ouais, ça me semble pas...
Certaines parties à 3 qui tournaient très bien, à cause des absences de joueurs. Ouais, qui tournaient très bien à 3.
D'accord, mais sinon, je pense que je mettrais un bon 4, oui. Pas grand chose à rajouter, mais après, vis-à-vis de la cohérence des voyages, la cohérence des voyages, par contre, c'est vrai que c'est toujours compliqué à mettre en place. C'est en général, je pense que c'est là où il y a le plus de boulot à faire, quoi.
Bah, c'est carrément ça. Hein.
C'est Paul, quoi.
Ouais, faut vraiment qu'ils aient accroché sur Paul Le Mont, quoi.
Ouais, pour aller en Roumanie, je peux te dire.
Ouais,
tu
c'est
vois
ça.
Où ils débarquent, ils font la gueule. Hein,
ouais, c'est le coin.
Ils ont fait la gueule. Hein. Oh là là, ils disent pourquoi est-ce qu'on allait se fourrer, putain, c'était infernal. Mais ils ont mangé, hein. Oh là là, le pauvre.
Je pense que le scénario de Beast est important. Le premier scénario, là, Suffer Little Children, là, où on rencontre Paul, il faut le faire jouer, puis il faut mettre plein d'autres scénars après pour que ça soit pas connecté tout de suite, que Paul, il existe dans la campagne, quoi.
D'accord, ouais, c'est intéressant, ça. De ton côté, Serge Dissant, 2 à 5?
Ouais, écoute, vraiment mitigé, parce que j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Parce que, comme disait, je pense que c'est une Dark Keeper, mettre autant de choses autour de force. D'un autre côté, c'est le côté vraiment, ouais, on prend le mythe, et puis chaque scénar, on va avoir une nouvelle gueule, un nouveau monstre. Moi, au bout d'un moment, c'est pas ce qui me plaît des masses. Donc je mettrai 4 parce que j'ai envie de le lire, voir ce que ça peut donner. Par contre, le faire jouer, je mettrai 2.
Bah moi de mon côté, je l'ai fait jouer. Et... Bah moi je suis un con, j'ai bien aimé les ombres. Alors forcément, vu que c'est mieux que les ombres, et que je l'ai défendu la dernière fois, moi je lui mettrai un 3,5-4. 3,5 sans rebosser et 4 avec vos idées là, parce que j'ai eu pas mal d'idées données. Je pense que, comme tu l'as dit, Douaner, je pense que moi je la jouerai dans les années 70, quoi. Pour avoir en plus le côté. Pouvoir plus faire passer le côté.
Politique,
le côté groupuscule et le côté méga société qui essaie un peu de dominer, qui essaie un peu de. Chose que j'avais du mal à faire passer dans les années 20, quoi. Il y avait certains anachronismes que je trouvais qui. J'avais du mal à faire passer, mais par contre, c'est le problème de ces trucs-là, c'est comme les ombres. Il y en a beaucoup plus, hein. Dans les fouillis, c'est truffé de très très bons scénars. Moi, j'avais adoré le scénar en Roumanie, putain, on fait le trip avec la musique de Wolf, avec la musique de Dracula, et mes joueurs, ils avaient mes tripés à mort, quoi. Et surtout après le scénar le premier scénar. Et je crois qu'en plus, je crois me souvenir, je suis tellement paumé dans le top, mais les scénars de Suffer Little Children, je crois qu'il est sur TOC.
Oui, il est sur TOC.
Hein, je l'avais rajouté.
Mais
il y a tout sur TOC. Il faut trouver, c'est tout. Non, je mettrais un bon 3,5-4. Ouais.
Bon. Honnêtement, oui. J'ai pas compris qu'ils aient réédité les ombres et pas celle-là.
Oui, il y a certains choix, oui.
Ouais, parce que celle-là, elle est vraiment, vraiment bien. Quoi.
Beaucoup plus cohérente.
Mes joueurs en gardent un souvenir, vraiment, 10 ans après, ils m'en parlent tout le temps. Quoi.
Ah oui, parce que attendez, je me suis gouré en vous parlant au début de la réédition, celle sur laquelle a bossé Carter, c'est sur le rejeton d'Azathoth, putain.
D'accord.
J'aime ouais, remettre
je
les...
Je croyais que c'était un scoop.
Même pas. J'ai même pas lâché la sauce.
Là, t'es plus crédible, moi, enfin, hein,
C'est-à-dire que, honnêtement, cette campagne, si vous arrivez à bien accrocher Paul Lemond, et Paul Lemond, très honnêtement, vous pouvez le faire intervenir pas mal de fois. Vous pouvez même le faire intervenir dans des scénars du style ceux des années folles là, qui se passent à Deauville. Ça peut très bien être un mec qui a été invité. Il y a plein de scénars. Et si vous arrivez à bien l'introduire et à mieux introduire que moi je l'ai fait, la NWI, franchement, c'est très très bon. Pas que ces trucs-là fassent trop catapulter.
Il y a même d'ailleurs un passage, j'avais oublié, où en fait, ils envisagent la piste comme quoi les joueurs vont utiliser Paul pour invoquer l'esprit de Nofruka. C'est-à-dire, et à ce moment-là, le sorcier va... ils peuvent interroger le sorcier au travers de Paul, ça peut donner une bonne séance aussi.
C'est bon, ça.
Ouais, bon. C'est bon,
père. Bah, écoutez, messieurs, on va pas trop tarder parce qu'il est déjà tard. Je vous remercie infiniment d'avoir participé et défendu vos bouts de gras les uns les autres. Merci de nous avoir rejoints malgré tes obligations familiales.
J'écouterai le début avec attention.
C'est gentil. Bon, peut-être qu'il y aura encore un podcast marre des masques, on ne sait jamais. On a toujours l'impression que ça s'arrête, mais non.
On en a vraiment marre.
Ouais, mais il faut faire gaffe, on va avoir des podcasts marre des masques.
Mais on continue.
Je pense que ça serait une très bonne conclusion au podcast de la barre. Mais écoutez, merci beaucoup, messieurs, et puis là, pour tous les autres, aux chers auditeurs, n'hésitez pas à poser des questions sur les forums, parce que les participants à ce podcast, vous êtes tous assez présents sur les fofos.
Ouais.
Donc n'hésitez pas, si vous voulez développer des idées ou quoi que ce soit, à poser des questions. Je me permets de dire que vous répondrez avec Poupic sympathie.
Tu peux.
Mmh. Ah oui, bien sûr.
On va essayer.
Sur ces bonnes paroles, messieurs, je vous dis Fungui et donc à la prochaine.
Fungui.
Fungui.
De même. Today we are canceling the apocalypse.